Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du service après-vente de la F1 consacrée au Grand Prix de Malaisie à Kuala Lumpur. On l'a attendue tout le week-end, mais elle n'est jamais venue. La pluie ne s'est pas invitée à la fête et pourtant, ça n'a pas empêché certaines équipes de nager, même de surnager, tandis que d'autres coulaient bien profond. Pour m'accompagner, il est là. Et d'ailleurs, il a eu le temps de penser à la course puisqu'il peut plus jouer à Gran Turismo 5. Bonjour Dino.
Bonjour. Ouais, je peux plus jouer à Gran Turismo 5, je peux plus jouer à rien. Je peux plus voir Blu-ray. Au secours.
Le pauvre a perdu sa PS3. Un beau jour de dimanche.
C'était horrible.
Et bien évidemment, vous savez, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un guest. Et Dino, présente-nous ce guest.
Eh ben, ce guest, c'est un rédacteur du site funf1.com, l'un des nombreux rédacteurs qui essayent de vous fournir le plus d'articles possible. Et c'est Antoine, avec qui nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion d'animer les qualifications, en direct, sur funf1.com, donc.
Bonjour à tous.
Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine. Et bienvenue.
Merci.
Mais de rien.
Alors, on commence par la question habituelle, hein, c'est vos premières impressions sur cette course. Qui n'a pas eu lieu sous la pluie, enfin presque pas, mais il s'est passé plein de trucs.
Ça, on peut dire qu'elle a été mouvementée par rapport à l'Australie. Hein.
Ce qui n'a pas marché en Australie, a marché là. D'ailleurs, on remerciera au passage le réalisateur qui nous a magnifiquement fait vivre cette course en ne montrant aucun des dépassements qui se passaient sur le reste du circuit, mais en ne nous montrant que les dépassements qui avaient lieu dans la ligne droite.
Ah ben attends, il y avait une ligne droite, tous les tours il y avait un dépassement.
C'est vrai que autant le réalisateur en Australie salé, là il était bourré, c'était terrible. Et donc, ce dimanche, nous étions le 10 avril, cher Dino. Oh,
voilà, c'est à ce moment-là où tu vas commencer à regretter d'avoir dit « Ah, je vais peut-être venir à cette émission qui a l'air sympathique ». Eh ben non. Tu vas regretter, Antoine.
Allez, fais péter les jingles.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Faut vraiment qu'on regarde le mec qui fait les jingles.
Ouais franchement, on peut mieux faire.
Nous étions donc le 10 avril. Alors ce n'est pas une spéciale cette semaine, c'est normal. Enfin, vous essayez de trouver un thème. C'est peut-être un thème mauvaise nouvelle en fait cette semaine.
Ça va être joyeux.
Et donc, le 10 avril 1912, première mauvaise nouvelle pour quelques milliers de personnes qui partaient à bord du RMS Titanic, hein, qui quittait son port de Southampton au Royaume-Uni.
Ah, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio.
Oui, c'est vrai. Trois jours plus tard, Leonardo DiCaprio devenait une star.
C'est vrai.
En même temps qu'il devenait un...
Autre mauvaise nouvelle, le 10 avril 1970, c'est la séparation officielle des Beatles.
Oh, non!
Le 10 avril 1998, on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle... Alors comment je vais tourner ça? C'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui n'aiment pas la paix, puisque c'est la signature des accords de paix pour l'Irlande du Nord, où pendant des années, il y a eu des attentats, on sait, il y a eu l'IRA et tout ça... Et il y a eu un accord de paix depuis 1980.
Il a un nom, cet accord de paix ?
Alors, je crois que c'est du Vendredi Saint ou quelque chose comme ça. Attends, je vais te donner le nom. En plus, il a un nom particulier.
Il abandonne rien, Shinji.
Bah, oh, tu me demandes...
Vous demandez un truc à Shinji, il va vous le trouver.
Oui, je vais te le trouver.
Et en attendant, une petite musique d'attente.
Eh bah, fallait pas demander, tu vois. T'aurais fermé ta gueule, j'aurais pas cherché. Eh bah, c'était l'accord du Vendredi Saint.
Oh.
Parce qu'il a été signé le jour du Vendredi Saint, bien évidemment.
Ah, c'est intelligent.
C'est un nom recherché, on va dire.
Et donc, l'an dernier, c'était une mauvaise nouvelle, par contre, pour les Polonais, puisque, vous en souvenez peut-être, c'était l'accident de l'avion présidentiel à Smolensk.
Non, désolé, c'est polonais qui fait rire. C'est pas rien, polonais, ça te fait rire.
Ça te fait rire, polonais,
ça. Polonais, ouais.
Ça te fait rire, polonais.
Non, mais c'est pas l'accident, c'est polonais, voilà.
Voilà, donc il y a l'accident qui a décapité toute la tête de l'État polonais, parce qu'il y a des sénateurs, des députés, des militaires de haut rang qui sont décédés lors de cet accident. Les naissances de ce jour, alors, on va pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. C'était la naissance en 1932 de Omar Sharif, qui, rappelons-le, n'a pas fait que du tiercé il a aussi fait des films.
Oh, c'est une mauvaise nouvelle pour le cinéma.
Il y a pire. 6 avril 1950. C'est un acteur, producteur, scénariste, réalisateur, chanteur, musicien, et je crois même qu'il fait flic parce que je l'ai déjà vu dans une télé-réalité où il faisait le flic. C'était la naissance de Steven Seagal.
Oh mon dieu.
Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le cinéma.
C'est vrai. Même si je tiens à dire, pour la défense de Steven, que même s'il est très mauvais, on adore regarder ses films.
C'est comme on aime bien regarder les HRT, hein, qui sont mauvais aussi.
1973, c'est la naissance de Guillaume Canet.
Mauvaise nouvelle encore pour le cinéma.
C'est méchant.
Préparez vos petits mouchoirs.
Oh, elle était facile celle-là.
On va désolé. Hein.
Attention, c'est aussi le jour de naissance de deux footballeurs, mais attention, il y a un piège. 10 avril 1973, c'est la naissance de Roberto Carlos et de Tony Vairelles. Mais attention, il y a un piège.
Ah, c'est Tony Vairelles, le footballeur.
Bien sûr.
Non, quand même une petite pensée pour Tony Vairelles qui bah, alors qu'il fête son anniversaire, a vu son club mis en liquidation.
Ah oui, joyeux anniversaire Tony, quoi. Aux États-Unis, le 10 avril, c'est une fête extrêmement importante. C'est le National Cinnamon Crescent Day. Autrement dit, la fête célébrant le croissant à la cannelle. Ouais.
Il y a
une fête du croissant à la cannelle.
Et encore, Antoine, toi, t'en as entendu qu'un, mais moi, ça fait des... Pff, depuis le début l'année dernière, j'ai le droit, quoi. Ça, la fête du croissant à la cannelle.
Vous savez qu'il y a un jour où, en fait, c'était écrit le dimanche, mais en fait, ça s'est passé un samedi. C'était
la
énorme.
Fête du pain au chocolat, etc. Oui, oui. Là, ah, ça, c'était énorme. Ça, c'était magnifique, ça.
Et donc, en F1, le 10 avril 1929, naissait Mike Hawthorn. Alors, vous savez qui est Mike Hawthorn, quand même.
Un patron d'écurie?
Non.
Vous savez pas qui est Mike Hawthorn?
Oui, c'est un pilote.
C'est un pilote qui fut champion du monde de Formule 1 en 1958.
Sur Ferrari, je crois, non?
Ah, attends, ça.
Pourquoi
parce que je
pose
sais
des
que c'est
questions?
C'est Van Paul. C'est Van
Paul. Franchement, pourquoi tu poses des questions?
C'est vrai, merde.
Mais oui, des questions, t'es con.
Je sais qui va y répondre. Oh, je devrais arrêter.
Mais oui, tu me poses une question, j'y réponds. Tu fermes ta gueule, tu vois, ça passerait plus vite.
Alors, attends, Google est ton ami.
il a roulé pour Ferrari.
Ah, ça me rassure. En quelle année?
Et donc... Eh ben, il a été champion du monde sur une Ferrari.
Ah, bah, oh, c'est pas mon rôle.
J'avais un doute, mais il a... Même si Ferrari n'a pas été champion du monde cette année-là.
Bah non, il n'est pas champion des constructeurs.
Bah si, justement, en 1958, c'est le premier.
Ah, c'est le premier?
Oui. Patate.
Et c'était qui le champion?
Bah, Mike Hawthorn.
Mais non, mais le champion constructeur.
Bah, Van Wall, c'est pour ça que j'avais un doute.
Ah.
Il a une particularité sur ce qu'il a fait après son titre. Il a gagné le titre, il était super content et tout, il avait du champagne, il avait des coupes, et il s'est dit...
Il a pris la voiture et il s'est explosé dans le mur?
Alors, ça, il l'a fait un peu plus tard.
Ouais, je crois qu'il s'est tué juste après...
59. Mais entre le camion et son titre, il s'est passé quelque chose.
Il s'est acheté un truc? Il s'est fait un cadeau?
Non, c'est tout bête. Il a gagné le titre, puis il s'est dit, bon, bah, voilà.
Il s'est arrosé de champagne. C'est le premier qui a fêté son titre au champagne.
Non,
Il a pris une énorme cuite?
Peut-être bien, mais non. C'est tout bête, hein. Enfin, tout bête.
Il est parti avec sa voiture? Ben, ça est fin?
Non.
C'est le premier à avoir reçu une couronne, enfin, un titre. Enfin, un trophée de champion du monde.
Mais t'as raison, il est parti. Mais où?
Dans ton cul.
Non.
Ça, c'est du niveau très bas, mais j'adore. Voilà. On est super bien en train de faire la pub de FanF1, là, quand même. Hein. Les rédacteurs sont top, ils sont...
Est-ce qu'il avait prévu de participer à la saison en 59, vu qu'il était champion du monde?
Je sais pas.
Il est parti chez Ferrari?
Ben, oui, on peut dire que oui. C'est tout bête.
Et il a fait sa propre équipe?
Non, bah il aurait pas eu le temps. Il est parti. En fait, il est parti à la retraite.
Ah!
Il a gagné le titre, et au lieu de... Souvent, ils défendent leur titre, il a dit, bon, bah, j'arrête la course, je pars sur mon titre de champion du monde.
Et donc là, tu vois, Antoine, comme je connais mon petit Shinji, on va avoir le droit à une rétrospective de tous les pilotes étant partis à la retraite après leur titre de champion.
Ouais.
Et bah, tu sais quoi? C'est exactement ça.
Ah, trop fort!
La question que je vous pose, la première, parce que vous allez voir, il y a plein de tiroirs. La question, c'est tout simple, c'est quels autres pilotes sont partis à la retraite après avoir gagné un titre ou leur titre. Alors Prost, exactement, 93. Même s'il avait un contrat pour 94, mais il est parti en 93. Mansell, alors c'est vrai qu'il est revenu plus tard, mais pour le coup, c'est vrai qu'il est parti aux États-Unis. Il y en a un autre.
Bah Fangio peut-être.
Akinen.
Non, pas Akinen.
Stewart. Oui.
Un triple Fangio.
Stewart.
Exactement. J'ai Stewart hier, en 1973. On se souvient en plus que l'histoire est un. Oui, il est un peu triste, c'est que dans l'idée de Stewart, on va dire, l'idée en 73, c'était voilà, je gagne le titre, je pars, et puis entre guillemets, je laisse les clés à François Sever. Bon. Alors non, on sait comment ça s'est terminé, tristement, mais bon, il est quand même parti à la retraite. Donc en effet, il y en a que trois, hein, puisque Mansell, c'est vrai que sur le coup, même s'il est revenu, il est parti, en effet, de la F1. Bon, on va pas parler de Jochen Rindt, qui est un cas un petit peu particulier, là encore. Et donc, j'ai eu envie d'étendre un peu la question.
Oula.
Et parce que, non mais, c'est vrai, quand partir sur un titre, c'est quand même un peu la classe.
Ouais, je vais nous faire la liste des mecs qui sont partis sans rien gagner.
Non. Je me suis intéressé à ceux qui sont partis de leur équipe en gagnant le titre, qui est de dire, en gros, je vous adore, vous avez fait un boulot formidable, grâce à vous, je suis champion du monde, mais je me taille quand même.
Bah, le meilleur exemple, c'est Alonso.
Ah bah oui, il y a Alonso,
en 2005, déjà dès 2005, dit, écoutez les gars, mon premier titre, c'est sympa, je me barre chez McLaren dans un an. Ce qui serait bien, vous voyez, c'est que l'année prochaine, on gagne le titre.
Il y a beaucoup plus récent avec le 4 Button qui est parti de Brown GP pour aller chez McLaren.
Ouais.
En 2009.
T'as cité Hill, en effet, en 96, qui est parti chez Arrows. Il avait un gros chèque de 10 millions chez Arrows. Ouais. Hein. C'est aussi, il y a aussi ça. Et puis bon, on connaît Williams, la bonne entente qu'il y a souvent entre Frank Williams et ses pilotes. Le problème de Frank de Williams, c'est pour lui, l'important, c'est l'équipe. Et donc, le pilote n'est qu'une composante. C'est une composante piston. Sauf que le piston, lui, ne fait pas chier puisque le piston n'a pas de contrat et ferme sa gueule.
Ouais.
Enfin, cette année, le gros piston, c'est Maldonado et ses billets.
Alors, d'autres cas de types qui sont barrés, des connus, et même certains qui sont encore en piste aujourd'hui.
Bah, Schumacher en 95.
Mais non, il y a Prost en 89.
Ah oui.
Chez McLaren, qui est parti chez Ferrari. Lui aussi, il y croyait à l'époque.
Il n'y a pas Piqué aussi qui est parti de chez Brabham sur un titre.
Il y a Piqué, c'était en 87, c'était de Williams,
oui, Williams
chez Lotus.
Voilà, j'ai une bêtise, Williams.
Après son troisième titre.
Il y a qui avant? Bah, il y a Loda qui est parti. Non, j'ai dit une bêtise, non. Parce que Loda, il a fait une saison après, l'année du sacre de Prost.
Ouais, mais plutôt encore. Hein, t'as le bon pilote, mais c'est pas des bonnes équipes.
Bah, Loda qui est parti de chez Ferrari pour aller chez McLaren. Même pas.
Non, il est parti chez Brabham.
Ah.
Eh oui, il a fait 2 ans chez Brabham. Brabham version Ecclestone.
Juste avant de prendre sa retraite.
Voilà, en 77.
Et j'imagine que toutes ces informations sont dans le guide F1 2011 du FIA.
Celle-là, non. Mais...
Non, celle-là, non. Ça n'a rien sans l'audace.
Est-ce que vous avez d'autres champions du monde comme ça?
Il n'y a pas James Hunt qui est chez McLaren? Non.
Non. Il y a Denny Hulm, champion du monde 67 chez Brabham, qui s'est barré chez McLaren, justement. Et alors, d'autres cas, mais alors là, c'est vraiment super ancien. Il y a Ascari, 1954. Alors, il quitte Ferrari pour aller chez Lancia, sauf que la voiture, elle était pas prête. Mais alors, quand je dis pas prête, c'est qu'elle a été prête qu'à la dernière course de la saison. En fait, il a continué à rouler sur des Ferrari et des Maserati en 55. Et il y a Fangio. Alors, Fangio, lui, il l'a fait, mais
plusieurs fois.
Il l'a fait plusieurs fois. Lui, sa spécialité, c'est de l'avoir fait plusieurs fois. Donc, en 1951, il gagne chez Alfa Romeo, mais Alfa Romeo quitte la F1.
Il part chez Maserati.
Il se barre chez Maserati.
Trop fort.
En 55, il est chez Mercedes.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire qu'entre-temps, il avait même déjà changé d'écurie. Il gagne chez Mercedes, il se barre chez Ferrari. En 56, il se barre chez Ferrari pour revenir chez Maserati. Et en 57, il quitte Maserati pour... l'année suivante, rouler sur des Maserati, mais non officiels. C'est plus l'équipe Maserati. Donc lui, c'était un spécialiste. Hein. Il a quasiment fait le tour du plateau.
Je suis à croire que les baquets étaient pas assez confortables.
Tu sais, avec l'âge, hein, voilà. C'est bien exigeant.
Ouais.
Regarde, Schumacher, ouais. Bientôt, il aura besoin d'un déambulateur pour sortir de sa Mercedes.
Faut être Dieu qui réussisse à bien y rentrer.
Mais moi, je suis persuadé que c'est Ralph qui est dedans.
C'est ça, le truc. C'est que c'est Ralph, en fait. Donc voilà, c'était le panorama des gars qui se sont barrés glorieusement ou un peu moins glorieusement de leur équipe. En général, c'est soit parce qu'ils s'entendaient plus, c'est souvent le cas quand on parle de Ferrari, de Williams, même de McLaren. ou parce qu'il y a un gros chèque. On peut parler de Hill, par exemple.
Parce que c'est leur rêve, comme Fernando d'aller chez McLaren. C'était son rêve.
C'était son rêve, c'est vrai.
C'était aussi son rêve d'aller chez Ferrari.
Bah, c'était son rêve aussi de retourner chez Renault.
Non, mais c'est pour ça, il a voulu aller chez les grilles, puis vu comment ça s'est passé, il est devenu rouge comme Ferrari de colère.
Donc voilà, c'était tout pour la F1 d'hier. On va parler de la F1 d'aujourd'hui, Dino.
On va parler du podium de l'actu, les trois actus qui, sur le site fanf1.com, donc, ont été les plus lus. Alors attention, on parle vraiment d'actu qui peuvent ouvrir à une discussion, hein, donc... Les trucs qui sont les plus lus sont des résultats de Grand Prix, etc. Donc, et le SAV de la F1 qui est pas mal aussi. Et on vous remercie parce qu'on est pas mal classé non plus. Donc voilà. Donc c'est vraiment les actus. Et on va commencer par une actu qui a été très lue et que je crois que je me demande si c'est pas toi qui l'a publié, Antoine. J'ai un doute.
C'est laquelle ?
C'est l'actu qui nous informait de cette information très informative et en même temps très intéressante. À savoir que Kaspersky lançait un antivirus aux couleurs de Ferrari.
C'était pas
sérieux,
moi.
C'est ça qui a eu le plus de...
C'est le troisième. C'est la troisième qui a eu le plus de visiteurs. Voilà.
J'ai eu peur à un moment que c'était le premier. Je me suis dit merde quand même.
Non, non, tu vas voir que niveau podium de l'actu cette semaine, c'est un peu pauvre.
Alors, quand on dit aux couleurs, c'est-à-dire quoi? C'est la boîte qui est aux couleurs? C'est le disque qui est aux couleurs?
Non, sérieux.
Ou c'est ton PC qui devient couleur de Ferrari.
Ah mais si c'est aussi performant que la Ferrari de cette année, ton PC est mal barré. Hein.
Ah c'est comme il y avait des ordinateurs comme ça, c'était les Acer je crois qui étaient aux couleurs de Ferrari.
Oui c'est vrai. Oui.
Voilà. Des commentaires à faire sur Kaspersky et sur l'antivirus Ferrari.
Mais moi comme je te dis, ce qui je vous pose la question, c'est qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi? C'est quand t'as un virus, t'as le bruit du moteur Ferrari
mais
qui
non.
t'informe que t'as
mais non,
un virus.
Mais maintenant pour lutter contre les chevaux de Troie, t'auras un cheval cabré.
Ouais.
C'est pour la petite touche politique. Ouais.
Mais je pense plutôt que comme signal, ça doit être Alonso qui gueule sur ses ingénieurs. La voiture est pas bonne. Vous avez un virus.
Le virus est plus rapide que toi. Mets-le en quarantaine. Est-ce que tu as compris ce message? Non mais ce qui est très drôle, c'est que dans le même temps, je crois que c'est Panda Security qui s'est associé à HRT. Donc, t'imagines quand même le mec qui est dans le rayon chez Leclerc, pour regarder les antivirus, pour se dire, je prends lequel? Le Ferrari ou le HRT? Je sais pas, j'hésite.
Ah, ceci dit, au moins, avec la protection de l'informatique chez HRT, on n'aura pas des petits messages comme celui de Senna qui, l'année dernière,
oui.
qui lui ont valu une expulsion à chez personne. Ça les aidera peut-être. C'est pour rappel, Senna a fait des commentaires assez peu glorieux sur Colin Coles, et celui-ci avait reçu le mail par erreur, et du coup, la décision a été prise de l'expulser du Grand Prix de Silverstone au profit de Yamamoto.
Il y a eu aussi un problème pendant l'intersaison avec McLaren, qui avait envoyé un mail par rapport à la présentation, je crois, de la MP426, et qui, en fait, quand tu transmettais le mail, en fait, ça le transmettait à toutes les personnes qui l'avaient déjà reçu, ce qui fait que ça a fait planter les boîtes de dizaines de journalistes.
Oui, c'est-à-dire que dès que tu le recevais, en fait, ça le réenvoyait, mais à toutes les personnes qui en copient, donc au moins, Ouais, un truc de malade.
Voilà. Ce qui fait qu'il y en a qui avaient reçu le mail en plusieurs dizaines, par centaines d'exemplaires.
Alors quelle est la deuxième actu? Parce qu'on va pas non plus passer un quart d'heure sur un antivirus.
Eh ben oui, on va rester un quart d'heure sur un antivirus. Non, la deuxième actu la plus lue, c'est plus qu'une actu puisque c'est une chronique.
Ah.
C'est une chronique, c'est la chronique hors piste, puisqu'il s'agissait de la chronique de la semaine dernière, je crois, qui revenait sur la menace des pilotes. D'une grève, enfin d'un pilote surtout, à savoir Sébastien Vettel, qui agitait le chiffon rouge d'une potentielle grève par rapport au fait que les pilotes n'ont pas été suffisamment consultés sur le RDS, etc., et sur les différents systèmes embarqués, qui c'est la fameuse polémique du début de saison sur les volants et compagnie.
Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes qui aimeraient que Sébastien Vettel fasse grève.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc, comme vous le disiez, Dino, il y a quelques instants, Vettel a proposé une grève des pilotes par rapport au fait qu'ils avaient trop de boutons sur le volant. Mais bon, comment il peut savoir Sébastien Vettel, vu qu'en course, il a pas utilisé le DRS, vu qu'il est toujours le premier? Et ouais. Que Red Bull n'a jamais de caisse ou qu'il ne marche pas.
C'est vrai que j'avais pas pensé au DRS, ouais. C'est vrai.
Pourquoi c'est lui qui va dire ça.
Mais en fait, il est directeur du GPDA, je crois, avec... c'est Massa, je crois, qui est co-directeur. Et c'est Barrichello qui est président.
Oui, c'est des vrais pilotes. Non, parce qu'en règle générale, le GPDA...
Bah, l'an dernier, c'était Heidfeld, mais je crois que quand Heidfeld est revenu chez Sauber, je crois que Heidfeld a démissionné, donc ils ont réélu un pilote, et c'était Barrichello.
C'est en fait, quand il était troisième pilote Mercedes, ils ont jugé qu'il avait le temps d'être président. Ensuite, il a été engagé par Pirelli, et c'est là qu'il est parti.
Alors que Massa et Barrichello, on sait en effet qu'ils ont rien à foutre.
Bah, c'est cette saison, en tout cas, Barrichello a pas grand-chose à faire. Il prend le départ, et 10 minutes après, il est déjà dans la cabine des commentateurs.
Voilà. Puis Massa, bon, il doit juste surveiller qu'Alonso soit pas derrière lui pour le laisser passer, puis c'est bon.
Mais bon, une grève, vous y croyez, vous, ou pas?
Non, parce que... D'abord, les pilotes sont trop dans un moule, enfin, ils ont pas des coronesses, comme les pilotes d'il y a 30 ans qui faisaient grève. Et puis, visiblement, il n'y a plus forcément unanimité, puisque certaines équipes ont trouvé des solutions avec des palettes, ont trouvé des solutions, surtout avec des pédales,
ouais.
Qui visiblement simplifient déjà beaucoup le fait d'avoir le DRS sur une pédale.
Oh, puis
donc, il y aurait Ferrari, il y aurait Mercedes. Donc, il n'y a plus unanimité. Et pour qu'une grève soit efficace, il faut qu'il y ait unanimité des pilotes, ça c'est clair.
Et puis, il y a les pilotes HRT, Virgin et Lotus, qui n'ont pas de caisse, donc ouais. Ça leur fait déjà un bouton de moins, ils ont moins envie de gueuler.
Si Vettel fait grève, il a déjà tellement d'avance que les autres vont en profiter pour essayer de le rattraper.
Mais c'est ça qui est terrible, c'est que Vettel aujourd'hui, je crois qu'il a 24 points d'avance au championnat, il pourrait boycotter le prochain Grand Prix à lui tout seul. Il serait peut-être encore en tête du championnat. Puis ça permettrait au Ferrari de revenir. Et à Weber de, oui. de gagner.
Alors Dino, c'est quoi la première, celle que tout le monde a regardée sur le site?
Eh ben, la première news, ce n'est pas une news. Parce que c'est un poisson d'avril. C'est le poisson d'avril que nous avons fait HRT. C'est fini, qui annonçait donc la mort de HRT, abandonnée par José Ramón Carabante. Et voilà, c'est l'article le plus lu de la quinzaine. Enfin, en tout cas, c'est la news la plus lue de la quinzaine. Voilà. On est content parce qu'on est un petit peu le seul site qui avons fait un vrai poisson d'avril. Donc voilà. On vous remercie de l'avoir suivi.
Surtout qu'il était crédible.
Oui.
Oui, voilà, très crédible.
Ils abandonnent déjà assez souvent en course.
Oui, c'est vrai. Volontairement en plus.
Oui.
Oui. Et Colin, il a remercié on peut dire le prince du Bahreïn parce qu'il a dit s'il y avait eu Bahreïn, on était foutus. Parce que la voiture était pas prête.
Ils l'ont dit, c'était pas prêt. Et puis là, on a aussi Carabante qui a dit, c'était très drôle, il a dit que si jamais un investisseur se présentait pour prendre la majorité des parts, lui, ça le dérangerait pas. Que voilà, il a pas l'intention de vendre l'écurie, il a pas envie de se retirer, mais bon, s'il peut avoir que 5% à la limite, pourquoi pas.
Ça le dérange.
Les Coréens sont intéressés.
Alors apparemment, ça aurait intéressé des Coréens, mais les exigences, faut quand même rappeler que c'est quand même une écurie qui a demandé à un pilote de donner 10 millions. Hein, 10 millions, il y avait que Raikkonen qui pouvait payer 10 millions à volant, hein, donc déjà qu'il paye 100 000 euros une course en NASCAR, donc même pas 100 000 dollars. Et apparemment les exigences financières de Carabin pour son écurie c'était très importante et ça a visiblement un petit peu découragé les Coréens.
Alors en même temps, faut régler toutes les dettes. Hein.
Puis c'est que HRT, je veux dire, si, genre t'es Ferrari, tu demandes 10 millions. Bon bah voilà. Tu peux arriver à les trouver, tes Ferrari. Bon, là...
Mais vu que Ferrari paye déjà entre 30 et 20 millions ses pilotes...
Non, mais le pire, c'est le paradoxe, c'est quand même, c'est que t'as des mecs qui payent pour rouler chez HRT, et que t'as des mecs qui se font payer pour rouler chez Ferrari, McLaren et Red Bull, quoi. C'est le paradoxe, quoi. Ça devrait être l'inverse.
Bah, Ferrari n'a qu'à leur donner un volant. Ça doublerait le budget de l'équipe.
Ah ouais, un volant, c'est 50 000 euros, ouais.
Ouais,
si tu payes Ferrari, t'auras peut-être le même cadeau que Badoer. Une petite Fiat.
Et une sculpture, il faut préciser, avec toutes les voitures qu'il a pilotées. Hein. Moi, je suis preneur. Te casser le cul tout l'hiver à rouler sur des pistes où il fait froid avec des voitures
pas fini non plus.
En sachant que tu, quand tu passes la ligne d'arrivée, ouais, tu gagnes, mais t'es tout seul, donc tu t'en fous.
T'es pas tout seul. T'es devant Marc Géné.
Oui, c'est vrai.
Excuse-moi.
Oui.
Non, mais HRT, c'est, il y a plusieurs signes contraires. C'est-à-dire qu'à la, fois, voilà, on parle d'une vente et même dans le Poisson d'Avril, il y avait des extraits qui étaient des vrais extraits d'interview où ils disent que financièrement, ils sont en difficulté, etc. Ils le reconnaissent. Et en même temps, ils signent un partenariat avec Mercedes pour utiliser une de leurs souffleries, alors que déjà, ils payent pas certains de leurs leurs fournisseurs. C'est assez c'est assez bizarre, quoi.
On peut se rappeler qu'ils ont pas payé Toyota en fin d'année dernière.
Ouais.
Ouais. Non mais déjà ils pensent à la soufflerie. Ils sont déjà plus intelligents que Virgil.
C'est vrai.
C'est tout sur HRT.
Bon bah y a pas grand chose à dire sur HRT.
Eh bien ma foi c'était de bien belles news. Même si c'était pas vrai. C'était pas... la réponse faux cul, c'était des bien belles news.
On peut peut-être passer aux citations alors.
Oui.
Alors, qui nous lance une citation comme ça pour
Ah moi j'en ai eu une. Je sais qu'elle va te toucher. Tu as peut-être pensé d'ailleurs Dino. C'est cette phrase qui nous prouve que même lui a un cœur et une âme. Ah. C'est oui. À certains moments, j'ai pleuré.
Ah.
Et cet homme qui a pleuré, c'est Ron Dennis. Eh oui, président donc de McLaren. Ah oui, parce qu'on met même plus de team manager, non, c'est président du groupe McLaren.
Bah, il est plus team manager, hein. Le team manager, c'est...
Oui, oui, non, mais, non, mais toi, c'est encore plus grand, c'est le groupe McLaren. Alors, il n'a pas dit ça en voyant la Red Bull RB7, hein. Non, non. Il a vu ça, parce qu'il était touché en voyant le documentaire, donc, sur Senna, qui s'appelle très modestement Senna. Et donc Dino, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu hier.
Apparemment, c'est un très beau documentaire. Enfin, je l'ai pas vu, mais...
C'est un peu comme ceux qui l'ont peut-être acheté, c'est le livre immortel où on voit... voilà, c'est un livre à la gloire de Senna. Hein. C'est fait par la Fondation Senna, enfin par la famille Senna, etc. Avec dedans plein de documents qu'on peut toucher dans des pochettes. Enfin, c'était un livre très ludique où vous pouvez toucher les premières licences de Senna, etc. Des affiches, des notes. Je crois que dedans il y avait un carton avec les notes que Senna faisait sur le circuit de Suzuka, sur les vitesses, les rapports de boîte, etc. C'est très touchant. Le film, c'est pareil, quoi. Vous avez un contact avec Senna, vous avez des scènes où vous voyez Senna, je dirais dans son quotidien. Ce qui est intéressant dans le film, en fait, c'est que c'est pas un documentaire très historique sur la carrière de Senna. Pour tout vous dire, quand ils abordent Prost ou quand ils abordent la carrière de Senna, ils s'arrêtent à chaque fois sur le Grand Prix où il a gagné un titre ou où il a perdu, donc Suzuka, sans vraiment s'attarder sur le déroulement de la saison, sans vraiment s'attarder sur les coulisses, les relations avec Ron Dennis qui se sont dégradées sur les fins de la carrière avec McLaren. Ça veut dire que c'est quand même un film qui nécessite d'avoir une certaine connaissance, et moi j'étais heureux en le regardant d'avoir lu par exemple le livre de Lionel Froissart, parce que voilà, j'avais plein d'informations que j'ai pu avoir en filigrane finalement dans le film. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est que il n'y a pas de voix off, ou très très peu. Je crois qu'il y a 2-3 passages où vous avez une voix off. Il y a des passages entiers où vous entendez des discussions de Senna avec ses ingénieurs. Vous avez Senna dans votre salon, quoi. Et c'est ce côté-là qui est assez touchant. Voilà. Maintenant, sur le fond, c'est un documentaire qui est un hommage à Senna, donc il y a pas de... L'aspect controversé de Senna est forcément moins abordé, mais voilà, honnêtement, c'est vraiment un film que je recommande. Il est obligatoire de le voir pour un fan de Formule 1, mais même, je trouve, pour ses qualités cinématographiques, c'est un film assez sympa à regarder, et on se laisse tout à fait prendre au truc, et c'est vraiment intéressant.
Toi aussi, tu as pleuré?
C'est-à-dire que quand j'ai lu le bouquin de Froissart sur Senna, il y a des moments où j'étais très ému. J'étais un peu moins ému dans le film, mais enfin c'est différent, c'est-à-dire qu'on sent une proximité en fait. C'est-à-dire qu'on le découvre sous un nouveau jour. Il y a notamment, je crois, il y a un long passage sur l'épisode de sa victoire au Brésil en 91, je crois. où il a un problème de boîte et en fait il gagne le Grand Prix mais avec l'épaule totalement ankylosée où il hurle de douleur dans le cockpit et vous voyez en fait vous le voyez sortir enfin être sorti du cockpit vous le voyez rentrer dans le paddock dire aux gens me touchez pas etc monter sur le podium essayer de brandir la coupe de verser du champagne tout ça avec son épaule et tout d'un coup, quand vous voyez ça, vous voyez le contexte, vous dites, vous comprenez le personnage, quoi. Ils ont même pas besoin de mettre une voix off, d'expliquer quoi que ce soit. Vous comprenez, voilà. Je trouve que le film est très intelligent sur ces petites choses-là. C'est vraiment agréable. Parce que on n'est pas en train de vous raconter l'histoire de Senna, qui a déjà été rabâchée, qui a déjà été écrite. Donc voilà. Après, c'est une question de sensibilité,
Car ça donne envie, tout ce que tu nous as dit là.
Plutôt.
Non, vraiment.
Mais en tout cas, moi, vraiment, je vous conseille, avant de le voir, de quand même lire des trucs sur la carrière de Senna. Le bouquin de Froissart, je le conseille vraiment. Et qui permettent quand même d'avoir un peu les coulisses et de voir, parce que ça, dans le film, c'est pas dit, mais il y a notamment, dans le film, il y a une discussion entre le dernier Grand Prix, où vous avez un passage entre Ron Dennis et Senna qui se parlent, c'est le dernier Grand Prix, où ils se parlent en disant, voilà, bon, écoute, tout ce qu'on s'est dit, etc., on peut oublier. Et si vous n'avez pas derrière toutes les clés des négociations, de l'histoire avec Peugeot et compagnie, c'est forcément vous y êtes moins sensible.
Alors sinon, Dino, pour enchaîner, est-ce que tu avais une citation ?
Bah, moi j'en ai une, c'est une citation d'un autre grand homme de la Formule 1, puisque c'est Jean Todt qui a dit en parlant des technologies vertes une phrase qui moi m'a personnellement beaucoup fait rire, et pensez bien à Jean Todt quand vous allez écouter cette phrase, puisqu'il a dit « plus vous êtes grand, plus vous jouez un rôle de modèle. » On rappellera que Jean Todt n'est pas très grand. Et qu'historiquement, certains faits de sa carrière n'en ont pas fait un modèle.
Oui, en plus.
Plutôt,
j'avais
oui.
pensé qu'à la taille, mais c'est vrai que aussi, oui. Bah, en même temps, c'est normal, il est petit. Donc il ne joue pas un rôle de modèle. Il y a une logique.
Voilà, c'est tout à fait logique.
C'est logique.
Mais bon, bien évidemment, il parlait de l'impératif pour la Formule, enfin, même plus globalement pour le sport automobile, de s'orienter vers des technologies vertes. Et on a notamment appris qu'il y avait un projet de création d'un championnat monoplace électrique, je crois, à l'horizon 2013. Mais qu'il y a aussi une vraie volonté de la FIA de promouvoir des formules vertes. Voilà, la même année où il y aura le fameux moteur 4 cylindres biturbo qui permettra d'économiser 35% du carburant par rapport à aujourd'hui, etc. Donc voilà.
Bah, je vais en profiter puisque tu abordes ce sujet.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc drive-thru, alors qui ne sera pas sur Jean-Todt, mais un peu sur le thème de l'écologie, tu as parlé du moteur, justement, c'est surtout de ça dont je veux parler, ça va être un drive-thru contre Bernie Ecclestone, qui nous fait le forcing, alors il paraîtrait qu'il aurait carrément demandé aux équipes de se prononcer contre le moteur. Et ça m'énerve, parce que j'ai l'impression que Bernie fait comme si ça venait d'être décidé il y a deux semaines, que personne n'avait été consulté, voilà. Bernie, il veut pas des 4 cylindres en ligne. Il veut que, alors je sais pas, est-ce qu'il veut continuer sur le V8 ou peut-être sur du V6, tout ça. En tout cas, il fait le forcing. Il démo d'ailleurs très contre Jean Todt, quelques semaines de ça. Et ça m'énerve parce que voilà, ce nouveau moteur, on en parle depuis, ça a été officialisé en fin d'année dernière, ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait, ça faisait plusieurs mois qu'on parlait de ce type de moteur. Je veux dire, personne n'a été pris au dépourvu. En plus, ça a été décidé, ça a été acté, et il continue, et j'ai l'impression même que il fait une offensive, voilà, en espérant aller contre tout ça. Et ça m'énerve.
Bon, on sait très bien que pour Ecclestone, toute opportunité est bonne pour essayer d'interagir avec le règlement.
Mais si tu veux, à la limite, il aurait pu le faire avant. Et là, voilà, ça a été fait. C'est même pas comme s'il continuait, c'est qu'on l'a pas entendu. Et là, bizarrement, je sais pas pourquoi.
C'est une démonstration de force.
Il aurait eu.
Ceci dit, après, on peut pas trop dire que Ecclestone soit très écologique, vu que déjà qu'il veut arroser les circuits.
Oui, en plus, oui. Donc, tu vois, à la limite, je préfère une opposition comme Ferrari, qui a été très mitigée dès le départ, mais au moins ils l'ont été dès le départ. Logique. Voilà, oui, en plus on sait que c'est logique. Parce que,
ils ont une vraie raison.
Ils ont une raison de constructeur, quoi. Ils ont une raison économique, enfin, marketing.
C'est sûr qu'ils font plus, ils vendent plus de V6 que de 4 cylindres en ligne. Non, mais attendons de voir. On sait pas ce que ça va donner. En plus, parce que en plus du F1 nouvelle génération, il y a beaucoup de choses qui vont changer sur les voitures. Souvenez-vous des ailerons. On pensait que ça serait super moche, que ça serait horrible. Finalement, on a mis un grand prix pour s'y adapter. Regardez le DRS, très mitigé. On était très mitigé il y a 2 semaines. Là, on commence à se dire, ah, il y a des possibilités. Voilà, attendons de voir. Puis je suis de l'avis de Jean-Todd qu'en effet, aller essayer de mettre plus d'écologie dans la F1, ça ne peut être que bon pour elle, même si c'est que d'un point de vue image. Mais on sait qu'on est dans une période plutôt verte, hein, d'écologie. Et que, bah oui, faut montrer que le sport auto, le prend en compte. Parce que je me dis, tu vois, ce que je me dis, c'est que je préfère que ça soit la FIA et les équipes, parce qu'ils ont beau gueuler, d'ailleurs, tous ne gueulent pas. Renault, par exemple, on les a pas entendus gueuler, visiblement Mercedes pas trop non plus. Je préfère que ce soit quelque chose qui vienne, entre guillemets, de l'intérieur. C'est la FIA, voilà, c'est les équipes qui se disent, on va réduire la cylindrée, on va essayer de mettre plus d'écologie dans la F1, plutôt que ça vienne de l'extérieur et que, par exemple, je sais pas, hein, ça peut arriver, dans 5, 6, 8 ans, un État ou même l'Union Européenne nous dise « Bon, bah, vos voitures polluent trop, ça sert à rien, faut que vous réduisez, sinon il n'y a plus de course. » Donc je me dis, autant prendre les devants et le faire dès maintenant.
Ce qu'on a déjà vu que... Une de nos ministres a refusé qu'on ait un Grand Prix de France à cause des émissions de CO2.
Non, puis
on
même, regarde,
pas de nom.
Mais de la même manière que certains pays, comme la Suisse, par exemple, ont interdit la construction de circuits et l'organisation de Grand Prix parce que c'était un danger pour la sécurité et pour la vie des hommes, pourquoi pas, effectivement, imaginer demain, justement, des pays qui voteraient des lois contre l'organisation de courses automobiles, juste par souci
que... Tout à fait. Donc je me dis, essayons au moins de montrer de l'intérieur que l'écologie c'est pas quelque chose qui passe au-dessus de la tête et que c'est quelque chose qui est pris en compte, parce qu'au moins ça sera un argument de dire oui, vous nous gueulez, mais n'oubliez pas que on agit.
Non, puis c'est vrai qu'aujourd'hui la Formule 1 ne joue plus forcément. On a souvent dit que la Formule 1 était une vitrine technologique. Quand on regarde aujourd'hui en dehors du KERS, c'est plus forcément aussi vrai qu'avant. Il y a encore 10 ans, on disait la F1 de 2000, c'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde en 2010, ce qui était vrai. L'électronique embarquée, etc. Tout ça, on l'a vu en vrai. Je pense que après une période d'électronique, on peut peut-être se tourner vers une période plutôt écologique où la Formule 1 doit apporter, le KERS qui aujourd'hui est équipé sur certaines voitures, doit apporter justement les technologies de demain pour les constructeurs, pour améliorer le rendement des voitures et leur impact, ce qu'ils appellent l'impact carbone, c'est ça ?
L'empreinte carbone, oui.
Mais d'ailleurs, moi, je me demande si l'une des idées, ça serait pas à l'avenir, plutôt que d'envisager un plafonnement du budget, et plutôt d'envisager que ce soit la FIA qui fixe, voilà, vous allez faire un KERS, on va faire tel moteur, etc. Pourquoi est-ce que la FIA ne dirait tout simplement pas, vous avez la liberté absolue de faire ce que vous voulez, en définissant quand même certains matériaux interdits, etc., comme ils ont toujours fait, mais en disant, voilà, on vous rend de la liberté, par contre, vous avez une empreinte carbone fixe à ne pas dépasser. C'est-à-dire fixer aux équipes de Formule 1 un objectif, et après ça sera aux équipes de développer des solutions pour permettre un KERS ou ce genre de choses, pour permettre justement à la voiture de rentrer dans ces cadres écologiques.
Sauf que le problème viendrait aussi des motoristes qui auraient beaucoup plus de travail pour respecter ça, justement.
Oui.
Mais c'est aussi comme ça qu'on fait avancer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi lancer des grandes challenges.
Il faut pas oublier qu'à partir de 2012, normalement, il y aura du biocarburant qui remplacera une partie du carburant normal.
C'est sur quoi la F1 est en retard, d'ailleurs.
En même temps, écologiquement, alors je sais pas quel type de biocarburant ils vont utiliser. Je suis pas expert, mais il paraît que, le biocarburant n'est pas si écologique que ça, parce qu'en fait, je crois qu'il faut 1 litre d'essence pour faire genre 1,1 litre de biocarburant, c'est pas top en fait, le biocarburant, malgré l'image qu'on veut lui donner.
Ils vont mettre du Red Bull, ça a l'air de bien marcher, Stone.
Oui.
Et toi, Antoine, tu avais une citation peut-être dans l'actu ?
Ce serait Colin Coles, encore, hein, à Cherté. On sait bien qu'ils sont en difficulté en ce moment, et ils semblent bien s'en rendre compte. Dimanche, il a dit, nos temps autour n'étaient pas mauvais comparé aux écuries de pointe, ce qui montre qu'il y a une lueur d'espoir.
Oh.
Donc, Cherté semble un peu défaitiste en ce moment, mais ils ont de l'espoir, c'est déjà ça.
C'est vrai que sur le début de saison, enfin, ils y croient, enfin, ils croient à la progression de la voiture. Bon, parfois ils se fixent des objectifs. Voilà, quand au début de saison ils disaient, oui, notre objectif c'est d'arriver à nous battre pour le milieu de peloton à mi-saison. Tendance à dire, oh, doucement. Ah, d'accord. Déjà, qualifiez-vous, ça sera déjà pas mal.
Ils voulaient viser la 6e place au championnat constructeur.
Ouais.
Donc être juste en dessous de Renault et Mercedes.
Pas mal.
Bon. Ah bah ce serait beau, mais...
En même temps, tu vois que quand tu vois qu'ils sont juste derrière Williams en ce moment au classement, t'as tendance à vouloir te dire, bon bah, ouais.
Oh, en deux grands prix, ils ont plus roulé que Williams, non?
C'est peut-être pas impossible.
En grand prix, oui. Hein.
Oui.
Mais le pire, je crois que c'est que le dimanche, Liuzzi, Kartikeyan, il a abandonné, enfin... On lui a demandé d'arrêter sa course parce qu'il y avait une surchauffe moteur. Et Liuzzi, en fait, il y avait un dommage sur l'aileron arrière. Et par raison de sécurité, ils ont préféré arrêter la voiture. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient très bien pu continuer et rester 8 tours et finir la course. Auquel cas, on aurait eu Williams, dernier du classement, derrière à Cherté. Ça aurait été quand même un tollé, quoi.
Ah bah là, le cours en bourse de Williams aurait chuté.
D'ailleurs, oui. Faudra regarder ça, ce qu'il en est en ce moment, le cours de Williams.
Heureusement qu'ils ont la valise de Maldonado, quand même.
Oh oui.
Ouais, voilà, c'est tout pour l'actu.
On passe donc, d'abord, par les qualifs.
Ouais. Qui était assez intéressante ce week-end.
Ah oui, très ouais. Intéressante même ce week-end, les qualifs.
Vous avez pu les suivre avec fanf1.com en live.
Et vous pourrez les suivre, d'ailleurs, puisque l'émission sortira mercredi, vous pourrez les suivre après-demain.
Alors, la place du con de cette semaine, eh ben, j'ai envie de dire, on reste sur notre lancée, puisqu'on parlait de William, c'est de son pétrole. Bon, qui ne le fait pas aller beaucoup plus vite.
Oui.
En tout cas, pas beaucoup plus vite que les Lotus. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet à Lotus, on va dire, de bien se détacher de Virgin, puisque Lotus est à quoi, moins d'une demi-seconde, en fait, de la Williams, mais 2 secondes devant la Virgin. Mm.
Virgin qui attend une amélioration de 2 secondes, justement, en Turquie.
Oui, bah, ça...
Oui.
Mais bon, c'est ce qu'ils attendent.
Demande à voir.
Ouais, ouais. Non, mais ils vont devoir le sortir, leur plan B, hein.
Quand ils ont...
Par contre, pour
quand ils sont même pas capables de gagner un dixième pendant l'intersaison, moi, j'ai du mal à croire que, au moment de la rentrée européenne, ils vont nous ramener 2 secondes. J'y crois pas.
Pour Maldonado, faut rappeler qu'il a explosé sa voiture, sur le mur de rentrée des stands. Pendant les essais libres aussi. Ah bah qu'est-ce que ça va être en Chine avec les virages à 90 degrés.
Bon, en même temps pour la défense de Maldonado, je me rappelle d'ailleurs pendant les qualifs en direct, il y en a beaucoup qui avaient, enfin on avait une question par rapport au fait que Maldonado avait-il sa place. Faut quand même rappeler que Maldonado, je crois, ne finit qu'à 2 dixièmes à peine de Barrichello, qui se qualifie lui aussi de justesse. Voilà, c'est quand même. Maldonado, il a la place du con, il passe pas la Q1, mais pour Barrichello, ça a été chaud, et même Maldonado, je crois, sur le dernier tour, aurait pu prendre la place de Barrichello. Voilà, c'est, pour le coup, c'est complètement Williams qui est en déroute, ça. C'est plus que les pilotes.
Ah oui.
Ah bah,
donc,
il nous promettait une surprise pour cette année, maintenant on sait ce que c'est.
Pour le début de saison, c'est la plus mauvaise surprise, c'est Williams.
Oui.
Ah oui. Enfin, à leur niveau, on va dire.
Bah c'est-à-dire que quand même, aussi bien en performance qu'en fiabilité, ils sont pas là quoi. Je crois que c'est 2 doubles abandons oui. Sur fiabilité en course et c'est en performance, enfin on voit en qualif, c'est pas merveilleux quoi.
Et puis bon, quand même noter qualification DHC. Enfin voilà, même alors, je vais pas dire large, le maximum c'était 1:43:516 et Kartikeyan a fait 1:42:574. Et Liuzzi était carrément 1 seconde devant son coéquipier.
Faut rappeler que Kartikeyan, ça fait 5 ans qu'il était parti de la F1. Liuzzi roulait encore chez Force India l'année dernière. Mmh. Ça quand même, ça joue quand même.
Ouais.
Il suffit de regarder Schumacher.
Et donc en Q2, on a Mister
Eleven, j'ai envie de dire, cette saison.
Allez, alors là, on va finir par créer une place du con en Q2. Hein. Parce que là, il est un peu abonné à la 11e place.
Il est un petit peu, voilà.
Surtout que ça fait deux fois qu'il se fait éjecter de la Q3 par Rosberg.
Par Rosberg, en plus.
Alors qu'en plus, lors des essais, il n'a pas forcément à rougir de cette performance. Il est souvent dans les essais, dans le coup. Mais moi, je pense, c'est un argument qui est souvent avancé pour Schumacher. Contrairement à Rosberg, qui est un jeune et qui a encore tout à prouver, Schumacher, lui, c'est un septuple champion du monde, qui a une famille, qui a 40 ans. Et je pense que dans le moment décisif de la qualification, il va pas autant à la limite. Il va pas chercher sur la bordure ou en dépassant un retardataire ou un truc dans le genre. Il va plus forcément aussi loin qu'il serait allé avant. Là où ce que fait Rosberg, quoi. Rosberg, il a 25 ans, il est tout jeune, il a encore tout à prouver. Lui, le risque qu'il le prend, il est un petit peu inconscient. Je pense que il y a ce petit côté, il y a ces quelques dixièmes que perd Schumacher parce que il prend peut-être moins de risques qu'avant, parce que tout simplement sa carrière en F1 elle est déjà faite. Elle est peut-être même plus à faire, et que il a sa famille, qu'il a goûté à autre chose, qu'il a passé 3 ans dehors de la Formule 1 où il a vécu avec sa famille, il a fait de la moto, etc. Et que même sans forcément le vouloir, c'est peut-être juste quelque chose d'automatique, sans qu'il s'en rende compte, il prend instinctivement peut-être moins de risques.
L'interdiction des essais privés ne l'aide pas non plus.
C'est vrai que c'est bizarre parce qu'il est assez performant en essai, même en course, on l'a vu ce week-end, il est pas trop mal. Mais en qualif, depuis l'an dernier, en qualif, ça ne passe pas. Et le nombre de fois où il s'est fait jarter effectivement par Rosberg, c'est assez impressionnant.
Oui, enfin, il a eu des problèmes avec l'aileron arrière pendant les qualifications aussi. Ça n'a pas dû l'aider.
Donc à noter en Q3, encore une Sauber en Q3, hein, Kobayashi en Q3 quand même. Mm. Les Renault, là cette fois-ci, Nick Heidfeld s'est bien rattrapé déjà en qualif de l'Australie. Ce qui est étonnant, c'est Alonso qui fait la Q3 pour être cinquième. C'est quasiment ça qu'on a. C'était hallucinant, quoi. Gros problème quand même de la Ferrari en qualif. C'était déjà un peu le cas, je trouve, l'an dernier. Là, en plus, j'ai l'impression qu'il y avait même pas l'envie. Enfin, voilà, il savait que de toute façon. Ça serait cinquième.
Il pouvait être que le meilleur des autres.
Encore comme en Australie, ils arrivent encore en Q3 avec seulement un train de pneus tendres. Là où en face, McLaren et Red Bull se sont qualifiés assez facilement à chaque fois et n'ont donc pu économiser deux pneus tendres. Et c'est vrai, quand on regarde la qualif, toutes les écuries sauf Red Bull et McLaren ont attendu les 3 dernières minutes avant de sortir les pilotes avec le dernier jeu de pneus tendres.
Super dangereux en plus, puisque on connaît le temps en Malaisie. Oui. Donc faire un truc comme ça en Malaisie, c'est quand même faire un gros pari. Hein.
Surtout qu'ils sont déjà obligés de passer les tentes pour se qualifier en Q2.
Oui, voilà.
C'est là le problème.
C'est surtout ça qui est marquant.
Alors, je vais noter aussi Hamilton, pas pour son temps définitif, mais pour le temps qu'il nous a fait au creux de la Q3. C'est quand même un truc, voilà. 1:35.000. C'est super rare, je veux dire, sur une feuille de temps, c'est super rare que ça arrive. Voilà. Et quand même, Hamilton, c'est pas passé loin quand même. Finalement, il n'y a que 104 millièmes d'écart. C'est pas passé loin.
Mais Vettel a fait une Vettel. Il sort le dernier après tout le monde. Oui.
Voilà.
Ouais, ouais. Et le dernier a passé la ligne.
Vettel, donc, qui fait la pole en 1:34.870. C'est sa 17e pole position, quand même. 22e pole pour Red Bull. 177e pole position pour Renault en tant que motoriste. À une moyenne de 210,338 km/h. Et il a dit, hein, c'est que sans Leclerc, sans doute, il n'aurait peut-être pas eu la pole. C'est vrai que 104 millièmes, c'est vraiment pas beaucoup. On passe à la course.
Je reviens juste sur Ferrari. Je me demande si, oui, parce qu'il y a vraiment un contraste assez saisissant entre les performances de Ferrari en qualif et les performances en course. Et je me demande s'il n'y a pas tout simplement chez Ferrari un problème au niveau de l'exploitation de l'aileron arrière en qualification.
Non, le problème, comme ils l'ont dit, c'est le chauffage des pneus. Ouais. C'est les pilotes Red Bull et McLaren arrivent à chauffer leurs pneus tendres pendant leur tour de formation. Ferrari, il leur faut 3 ou 4 tours. Et au bout de 3 ou 4 tours, les pneus tendres, ils s'effondrent. Ouais. Donc déjà, ils sont pas en condition. Et selon eux, l'aérodynamique n'est pas assez poussée. C'est vrai que la Ferrari ressemble pas mal à celle de l'année dernière, si on retire le double diffuseur, le Kers.
Ah oui, oui, oui.
Bon, la Red Bull, ils ont réussi.
Ferrari, c'est le classicisme avec un petit peu de Red Bull.
C'est vrai
même.
Que quand tu prends
qui est d'ailleurs surprenant.
Quand tu prends la Red Bull, c'est vrai que par rapport à ce qu'elle était l'an dernier, quand tu regardes l'arrière de la Red Bull, tu vois qu'il y a eu du travail. Et c'est vrai que sur la Ferrari, t'as pas l'impression qu'il y a eu énormément de travail sur l'arrière de la voiture. Là où sur la Red Bull,
la
c'est
brillant. La RB7, elle ressemble surtout à la RB5 de 2009.
Oui.
Ah, avec son arrière très resserré, c'est assez...
La RB6 a été bâtie autour du double diffuseur et le diffuseur soufflé. Donc vu que ça a été interdit cette année, on voit bien la RB5. Qui, bon, faut le rappeler, s'il n'y avait pas eu le double diffuseur chez Braun en 2009, la RB5 aurait dominé aussi la saison 2009. Parce que dès qu'ils ont eu le double diffuseur... ils ont totalement allumé la concurrence.
Mais moi, je pense que c'est ça qui fait l'avance aujourd'hui de Red Bull. C'est ce qui fait l'avance de Red Bull, c'est que tout ce qu'ils ont mis sur la monoplace cette année, ça fait déjà 2 ans que c'est dans les tuyaux. Ça fait déjà 2 ans que New Way avait prévu ça pour les développements de la RB5, qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a dû changer son fusil d'épaule dès le premier Grand Prix, et que entre temps, toutes ces idées-là sont restées et qu'il les a réexploitées à perfection. Voilà, finalement, il a juste maximisé son concept de la RB5.
En gros, l'arme secrète de Red Bull, de toute façon, c'est Adrian Newey. Il y a quand même quelques écuries qui parlaient, en blaguant, de le payer lui pour qu'il arrête de bosser.
De mettre chacun 1 million, je crois.
Voilà. Le truc, c'est que les autres, ils ont l'impression de se battre pour la deuxième place, quoi.
On passe à la course?
Oui.
On passe au top 10.
Oui, avec une petite révolution, Shinji.
Non, tout simplement, c'est vrai que sur la premier Grand Prix, il y a eu quelques petits soucis au niveau des votes et tout ça. Faut le dire aussi. Ouais. Là, tout a été nickel. Bon, même s'il y a des gens qui ont voté pour Grosjean et Badoer, mais c'est un autre problème. Et c'est vrai que vous êtes très nombreux à voter. Ouais. Faut le dire. Hein. Et on vous en remercie, vraiment. Et c'est vrai que comme vous êtes très nombreux, c'est vrai que le système 50-50, c'est bien, mais ça dilue un peu vos votes. Alors là, on s'est dit, le vote des auditeurs représente 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de calcul, oui, il y a une partie des animateurs, puis une partie des auditeurs. Non, désormais, on s'emmerde pas. Vous votez.
On vote comme vous, hein, avec le même module, et à la fin, on regarde le tableau final.
Bon, pour être honnête, c'est pas pour vous qu'on a fait ça, c'est juste que Dino n'arrivait plus à compter.
C'est tout. Voilà, c'est bien trop dur.
Moi, j'arrivais plus à compter.
Il faut aussi dire que le vote des auditeurs, si justement on avait mis le vote des animateurs avec une proportion plus élevée que le vote des auditeurs, c'est aussi parce que il y avait une certaine tendance parfois à vouloir faire des putsch ou voilà à promouvoir des pilotes plus que d'autres.
À pondérer, c'est vrai que.
Donc nous, en tout cas, on s'était astreint à une ligne de conduite en disant voilà, on évite, même si malgré quelques incidents, on s'est engagé en tout cas en 2010 à ne pas forcément mettre en avant outrageusement un pilote juste pour lui faire avoir des points. Mais on peut pas empêcher les auditeurs de le faire. Donc c'est vrai quand on a 5 ou 6 personnes qui font leur classement, on est obligé de pondérer ça avec notre propre voix. Bon là, étant donné que vous êtes 60 personnes à voter. Normalement, même s'il y en a un qui s'amuse à mettre, je sais pas, Kartikeya en premier, juste pour qu'il ait des points, il y a finalement quand même très peu de chances qu'il ait des points quand on regarde sur le total de voix qui va être exprimé. Donc,
finalement, nous, on a toujours l'avantage de pouvoir défendre notre classement, tout ça, de le montrer dans l'émission, mais finalement, notre vote, désormais, il vaut autant que votre vote. Toi qui nous écoutes derrière ton PC, ton vote compte. Ça me fait chier, mais compte autant que le mien.
Alors, on va peut-être commencer, Shinji, par tous ceux qui ne sont pas dans le top 10 du SAV.
D'accord. Oui, et ils sont nombreux.
Tous ceux qui... Alors, bien évidemment, on va pas parler de Grosjean qui a eu 27 points, on va pas parler de Badoer qui en a eu 17. On peut juste vous dire que...
Alors, rappelons aussi que pour le nombre de points qu'on va dire, en fait, on applique le même barème que le championnat de fond.
Sachez juste, à titre de comparaison, que le numéro 1... a remporté 1376 points sur l'ensemble de vos votes. D'accord? Ça vous permettre de voir un petit peu à quel point les autres se situent. Alors, on a 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points. On a D'Ambrosio, Alguersuari et Liuzzi. Et là, vous vous dites, attends, 3 pilotes qui n'ont pas marqué de points et Liuzzi est dedans. Ça veut dire que Kartikeya a marqué des points? Oui. Il y a des gens qui ont de l'humour. Puisque Kartikeya a marqué 1 point, tout comme Maldonado, hein. Vous vous rappelez, c'est 1 point par rapport aux 1376 points. Leader.
Ah, c'est un point pour la qualification. Attends, il était dans les 107%.
Mais pourquoi Liuzzi n'en a pas eu, quoi?
Parce que lui, il a piloté l'année dernière.
On s'est même posé la question, est-ce que Liuzzi est dans la liste des choix? Eh oui, il y est. Ensuite, on a Barrichello et Sutil qui ont reçu 3 points. On a Perez qui a reçu 10 points. Glock, 12 points. Buemi, 13 points. Rosberg, 20 points. On a Trulli qui est 13e avec 25 points. On a Kovalainen qui est 12e avec 47 points. Et enfin, on a le 11e. Et là, vous dites, mais qui est donc le 11e? Et bien le 11e, il a l'habitude d'être 11e, puisqu'il s'agit de Michael Schumacher, qui a 90 points. Moi, personnellement, Schumacher...
C'est plus qu'il n'en aura cette saison.
Schumacher, je l'avais mis 10e.
À noter Kovalainen, oui, donc, que tu as mis 9e, Antoine.
Oui.
Non, t'as envie de dire un mot sur Kovalainen
Il a réussi à rallier l'arrivée avec, il était pas trop loin des Toro Rosso, puis avec une belle qualification quand même, hein, le premier des autres, on va dire, et pas si loin que Maldonado, comme on a dit tout à l'heure.
Et c'est vrai, Choumi, alors que moi j'ai mis 9e, Antoine, oui, toi tu l'as même mis 8e, mais il n'est pas dans le classement. Donc vous voyez, c'est alors, voilà bien la preuve que... Voilà, ça compte.
On vaut plus rien.
Parce que dans l'ancien système, en faisant ça, il aurait été dans les points, ça, oui. C'est clair. Eh ben non.
Moi, pour info, j'ai mis Kovalainen 8e, un peu pour les mêmes raisons. Voilà, j'ai beaucoup aimé le week-end des Lotus, qui ont été vraiment dans le coup et qui se sont vraiment montrés dans le rythme du groupe de devant, donc Force India.
Ouais, elle t'accroche.
Et Toro Rosso, on sent qu'il y a le potentiel de eux vraiment ils ont fait le pas en avant qu'on attendait à l'intersaison. Voilà, ils sont dans le paquet dans le paquet de derrière, c'est ce qu'il faut, ils sont plus largués. Et j'ai mis 10 points à Schumacher juste parce que on a beau critiquer Schumacher, mais lui au moins, il a fait quelque chose en
même si on l'a pas beaucoup vu.
Même si on l'a pas beaucoup vu.
Il a battu Rosberg, c'est déjà faut le souligner.
Oui, enfin vu le départ de Rosberg, c'était pas bien dur.
Là pour le coup, autant l'an dernier on disait oh, non mais Schumacher il exagère de parler de la voiture, en fait il est vieux. Là j'ai envie de dire, c'est presque une bonne excuse.
Ah, en même temps, quand on voit qu'ils ont été obligés d'ouvrir des écopes oui. sur la voiture parce qu'elle n'était pas assez refroidie, bon, ça remonte quand même qu'il y a un souci. Alors que tu vois la Red Bull qui a pas un pet de chauffe et qui roule 2-3 secondes plus vite.
Alors, en plus, ouais. que l'arrière est quand même très très compact sur la Red Bull. Enfin, c'est très moulé oui. autour de la coque du moteur, hein, donc.
Après, la Mercedes est la plus petite monoplace du plateau, mais bon, ça excuse pas tout, quand même plus.
Alors, ce qui est drôle, c'est que chez Lotus, on a mis des tenues jaunes parce que le noir, ça attire la chaleur, et donc pour qu'ils supportent mieux la chaleur, on leur a mis un truc jaune. Sauf que toute la voiture, elle est noire.
Faut dire en même temps avec les échappements à 900 degrés qui s'ouvrent vers l'avant.
Voilà, ils sont pas à 1 ou 2 degrés. Près.
Et donc, le 10e du classement et qui va marquer un point. C'est un pilote écossais, même si son nom ne le dit pas. Hein. En même temps, entre les Franchitti et tout ça, on a l'habitude.
En même temps, Franchitti, c'est son cousin.
Paul Di Resta, 10e, que j'ai mis 10e. Antoine, tu l'as mis 10e, je sais pas, Dino, tu l'as mis combien Est-ce que tu l'as mis
Je l'ai mis 9e.
Oui, Di Resta, qui est pas mal, parce que c'est vrai que bon, la Force India est pas forcément... on la sent pas encore forcément aussi bien que les années précédentes. Et là, ouais, une bonne course.
Non, et puis il est devant Sutil, quoi. Ça fait déjà deux fois qu'il marque des points devant Sutil.
En même temps, on croit tellement au talent de Sutil.
Bah, c'est surtout que Di Resta est quand même pas mal critiqué, vu qu'il a quand même été vachement poussé par Mercedes. Enfin, Force India a été vachement poussé par Mercedes pour le prendre. Bon.
Bah oui.
Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est... Nico Hülkenberg et Di Resta ensemble.
Mais ça serait un beau duo de pilotes, hein.
Oui.
Ah bah ça pourrait pousser.
Hein. Tu penses qu'il pourrait dégager Sutil en courte saison, toi?
Bon. Honnêtement, ce serait pas ce qui me dérangerait.
C'est tellement un talent en devenir Sutil que il reste toujours chez Force India.
Oui, enfin Sutil qui dit un jour nous gagnerons le titre.
Et Red Bull l'a fait. Je vois pas pourquoi Force India ne le ferait pas.
Alors oui, Red Bull a quelque chose que Force India n'a pas. Le talent d'un ingénieur.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 5 ans, Christian Klein t'avait sorti qu'un jour il serait champion du monde avec Red Bull, tu te serais foutu de sa gueule.
Eh, mais c'était Klein, voilà.
Non, mais On se serait foutu de sa gueule. L'idée d'une Red Bull championne du monde.
N'importe quel pilote. On se serait foutu de sa gueule en disant, ouais, attends, déconne pas, retourne à tes canettes.
Et je pense que Red Bull avait plus ses possibilités au niveau du financement.
Oui,
avec son propriétaire.
Bon, pour information, il a quand même Di Resta dans le classement des auditeurs, il a quand même récolté 142 points.
On passe à la 9e place, lui qui a fait un bond dans le classement.
Mais en arrière, hein, ce bond.
En arrière. Alors dans le classement, il a fait un bond en arrière et sur la piste, il a fait un bond en avant. Il a fait quand même ce magnifique saut de cabri. Hein. C'est donc Petrov. Alors qui se plante, hein, parce qu'à l'origine, c'est quand même il sort de la piste. Et il y a cette bosse. Alors, c'est vrai qu'au début, sur le premier coup, hein, sur le coup, je me suis dit, merde, il a sauté sur le vibreur. Mais non, il y a une bosse à 2 mètres à côté du vibreur, au milieu de l'herbe. Mais c'est quoi ce truc délire?
Moi, c'est aussi de la faute de Petrov. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est Lafitte qui l'a dit pendant la retransmission. Il est un petit peu con quand même, Petrov, d'être dehors et de continuer à accélérer sur l'herbe. Il est bourrin, oui. Il y va encore à fond. Voilà, voilà. Et c'est le problème, c'est qu'on l'a vu dans le dernier Petrov, il est capable de faire de très belles performances, puis à un moment donné de nous faire une mancelle, quoi. C'est-à-dire qu'il, voilà, sa tête part à l'envers, voilà. Tout se déconnecte.
Le cerveau se débranche, voilà.
Ah, mais ils se sont engagés pour le meilleur et pour le pire avec
bah
lui.
Oui.
Quand même, enfin, c'est pas normal non plus qu'il y ait une bosse là. Enfin, même si c'est de faute,
c'est
quand
surtout
même,
il a dû être gêné au freinage par les dépôts de gomme énormes. Il y a quand même...
Bah d'ailleurs justement c'est Di Resta qui s'en est plaint en disant que il avait mal aux mains en fait parce qu'il se prenait des boules de gomme sur les gants etc. Et c'est Paul Embry de comment ça s'appelle de Pirelli qui a dit bah écoutez nous les trois premiers pilotes se sont pas plaints donc ça veut dire grosso modo Pirelli ne fonctionne que pour les trois premiers pilotes hein. mais si effectivement la plainte devait devenir récurrente on y réfléchirait et c'est vrai que je crois que c'est chez Lotus ils ont une espèce de coque renforcée au-dessus du gant donc ouais. On voyait bien il y avait une espèce de mousse au-dessus du gant et je pense que c'est justement en prévision pour éviter de se prendre des boulettes de gomme et ça que le mec de Pirelli il a dit vous savez comme ça se dépasse beaucoup bah il faut bien qu'elles atterrissent quelque part les boulettes de gomme.
Non mais je pense qu'ils vont faire ça McLaren et Ferrari s'ils vont essayer de dégommer leurs pneus devant les Red Bull au départ.
Déjà faut déjà être devant la Red Bull.
Ouais faut mais... être devant.
Ah tu freines pas au freinage et
non puis Petrov ça m'a un côté un peu bourbi, vous savez, quand il s'est arrêté, il avait le volant dans la main, encore. Et
puis, ah bah, ça va moins bien marcher maintenant, hein.
Ça va, voilà, c'est exactement ça. Le volant qui, en fait, je crois que l'électronique marchait encore, enfin, c'est juste que, voilà, c'était plus accroché.
Ouais.
Ah bah, c'est ce qui s'appelle prendre les choses en main.
Oui, mais, voilà, ça a presque occulté d'ailleurs sa course à Petrov, bon, qui a pas été, enfin, il y a eu le bon départ des Renault, des Lotus Renault. Le très bon départ même.
Oui.
Bon, après Petrov on l'a moins vu.
Ils ont d'ailleurs un truc quand même les Lotus Renault. Enfin ça fait deux grands prix où ils partent super bien. Il y a quand même un truc sur cette voiture.
Toutes les voitures qui sont devant elles, ils ont soit des pépins de Kers ou des ronds, des choses comme ça. Donc...
Enfin là quand même.
C'est normal.
Leur départ ils sont. Ouais quand ouais. Même, non, là... on sait très bien qu'à l'époque
non, Renault... c'est intelligent parce qu'ils sont passés sur la partie gauche où il y avait plus d'adhérence et tout. Non non c'était vraiment très très beau.
Mais Petrov par contre il a quand même fait pas mal d'erreurs en course. Enfin, quand il était pourchassé par Alonso, à un moment, il a loupé son freinage, il est quand même parti super extérieur. Ouais. Du coup, il s'est fait dépasser par Alonso, rattrapé par Schumacher. Après, quand il était premier, il a un peu tardé sur son arrêt. Ensuite, son vol planait. C'était loin d'être le week-end parfait qu'il nous avait fait en Australie. Après, j'ai envie de dire, la Lotus Renault qui part en pièces. D'un côté, c'est marqué la date.
Il n'y a pas de surprise.
Voilà. Donc bon.
On passe au huitième, vous voulez parler encore de ce russe, mais attention, il fait peut-être partie de la mafia comme il est russe.
Oui, c'est vrai.
Donc attention à ce que vous dites.
C'est vrai.
Non, parce que le huitième, c'est un brésilien, donc on a quand même moins peur des transsexuels que des gens de la mafia.
Oh, les gros clichés nationaux.
Oh bah, je peux t'en sortir plein hein, jusqu'à la fin du classement.
Qui a mis Barrichello dans le classement? D'ailleurs, je tiens à dire quand même, on sait jamais, hein. Monsieur Malbranque, si jamais vous nous écoutez, va vraiment falloir que vous fassiez un truc parce que nous dire que les Williams, c'est les Mercedes, et les Mercedes, c'est les Williams, il n'aime pas arrêter tout le week-end de nous dire Schumacher dans la Williams, oh, c'est Rosberg, alors que c'était une Williams, hein. D'accord? On est bien d'accord, c'était une Williams. Les deux voitures sont quand même assez différentes, hein. Et ben, il arrivait toujours à nous sortir que c'était la Williams de Rosberg et la Williams de Schumacher.
Oui, enfin, c'est comme le coup, il a dit, alors on a Fernando Massa et Felipe là.
Felipe Alonso. Et là Felipe s'est arrivé. Non non non. Non non.
Donc Massa qui est 8ème
avec 328 points.
Bon au final il finit devant son coéquipier. Mais bon.
Il aurait fini après.
Oui, son coéquipier quand même fait une bourde magistrale.
Voilà. Ah oui, voilà.
Je ne suis pas d'accord.
Même, oui, c'est bien qu'elle est régulière.
On y reviendra. Mais je ne suis pas d'accord.
C'est bon, cette fois-ci, c'était vraiment Fernando est plus rapide que toi.
Oui.
J'ai même pas mis ça, moi, dans mon classement.
C'est souvent le cas, hein. On n'a pas besoin de lui dire. Hein. C'est...
Oui, bah maintenant, c'est terminé, on lui dit plus.
Bah, comme en Australie, il l'a compris tout seul. Hein.
Je voudrais rajouter sur la course de Massa.
Je sais pas, vous l'avez classé ou pas, Massa?
Y a-t-il encore quelque chose à rajouter?
Massa, bah écoute, moi, je l'ai mis 7ème.
Pareil.
Mais pourquoi?
Pareil.
Pourquoi?
En même temps, on l'a mis que 7ème.
Oui,
hein,
mais non, mais quand même, vous l'avez mis, quoi.
Bah oui, mais parce que bon, il... comment dire? Je trouve que dans sa médiocrité, enfin,
de... il est bon.
Il est voilà. Il est pas trop mal.
Ça, c'est un domaine où il excelle, Massa. Hein, la médiocrité, il est super bon. Si on était un champion de Formule 1 de la médiocrité, il serait peut-être champion du monde.
Il y a pire, il y a Alguersuari. Enfin, Alguersuari, il excelle surtout dans « Je suis meilleur que mon coéquipier ». Il se prend une pénalité, mais je suis quand même derrière lui. C'était pas de la petite pénalité qu'il a pris, quoi, Bonny.
Oui, je crois qu'il s'est pris un stop and go, en plus. Enfin, il est
ouais, un seconde d'arrêt.
Donc, Dino, tu n'as pas
vu. Oh non, j'ai pas vu, non. Pas vu, pas pris.
Oui, c'est vrai. On va passer à la
c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup.
Deuxième place avec ce bouffeur de sushi radioactif. Oui, je vais aller dans les clichés cette semaine.
Il a perdu son chien, il faut le préciser.
Non.
Tac, qu'il était énervé, comme il est énervé, il a refait le kamikaze, enfin, il a revu le Kobayashi de l'an dernier. Parce que il y a deux semaines, c'était le petit Kobayashi.
Faut dire, il est pas bien. Hein.
Non, on peut pas dire qu'il y a deux semaines, c'était petit Kobayashi, quand même. Enfin, il finit quand même dans les points, il fait une bonne course, ah, il fait une super qualif.
Je veux dire, il fait une super course, mais il avait pas ce côté, qui est pas forcément d'ailleurs tout le temps un bon côté, parce que justement faire une course solide c'est bien, il y avait pas ce côté flamboyant, j'essaie de dépasser tout le monde et tout ça,
ouais,
et il fait une super bonne
bah, c'est aussi parce que son coéquipier avait fait une meilleure performance là, il est forcément plus flamboyant parce que d'abord il a beaucoup rencontré Michael Schumacher ce week-end et ensuite Perez n'a rien fait
donc a mis 6e aussi Kobayashi.
J'aurais tendance à dire pour c'est Kobayashi, c'est facile d'irradier dans ces conditions.
Et commence à y avoir des dépassements, on le voit. Même s'il n'est pas le seul à en faire, mais on le voit. Et encore une fois, deux arrêts seulement pour les pneus.
Comme Virgin.
Ouais, enfin bon.
C'est la preuve que finalement, cette histoire de pneus, enfin, les équipes nous baratinent depuis le début de la saison, quoi. Ils disent, ouais, les pneus tiennent pas. Ben oui, normal, vous tapez dedans. Regardez Sauber, par exemple, Sauber ne tape pas dedans, ils sont moins rapides sur toute la course, mais comme ils font un arrêt en moins, bah ça compense un peu. Voilà, arrêtez de taper dedans, vous ferez deux arrêts. Hein.
Non, puis la voiture, enfin, elle arrive justement à ne pas... parce que là, le voir que c'est deux pilotes différents qui font moins de... moins que les autres, ouais, il y a un truc, enfin, il y a un truc quand même avec cette voiture qui fait qu'elle use moins ses pneus que les autres. Ouais, mais ça veut dire que justement, comme tu dis, les autres équipes pourraient travailler dessus. Il y a de la marge.
Bah, je pense qu'après, c'est des philosophies de conception, de la même manière que Ferrari a cherché à avoir son rythme en course et à elle aussi être économe avec les pneus. Voilà, je pense que dès le départ, ils se sont dit, si on veut s'en sortir avec les Pirelli, il faut qu'on soit une écurie économe. Il faut qu'on mise sur, bah, essayer à chaque fois de faire un arrêt moins que les autres. Ça sera ça de gagner.
Assez loupé pour Alonso.
Va falloir qu'il change de stratégie, là.
En plus d'aileron.
Quelque chose à rajouter sur Kobayashi? Donc
vous l'avez mis combien, Kobayashi?
6e, mon
pote. Ah, 6e, moi j'ai mis 7e. Alors, ça en fait un que j'ai la bonne position, dis donc. Waouh. Content.
Bah, passons justement à la 6e place.
Oh, on peut passer à la 5e.
Pourquoi tu veux pas qu'on parle à la 6e place?
Parce que vous allez être méchant avec lui.
Parlons du bouffeur de paella. Pardon, toi, Alonso.
Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il va réussir à trouver pour le 4e. Je t'attends au tournant, Sylvie.
Le bouffeur, ouais.
Alonso, donc.
Alonso.
Que j'ai mis 8e.
Que je n'ai pas mis dans le classement.
Antoine, tu l'as pas mis, oui.
Que j'ai mis 4e.
Oh.
Et attends de voir avant qui je l'ai mis.
À noter qu'Alonso marque 464 points alors que Kobayashi en avait marqué 379.
Sa manœuvre me dérange et sa déclaration d'après-course aussi. La déclaration, oui, les pénalités, c'est pas grave, je ne perds pas ma place. Bon, il dit ça à côté d'Hamilton qui, lui, a perdu sa place au profit de Kobayashi. Alors que c'est justement lui qui a ruiné la fin de course de Hamilton, faut le dire.
Ouais, hein. Est-ce que c'est à cause de ça qu'Hamilton y fait un arrêt? Est-ce que c'est parce qu'il y a une crevaison lente ou est-ce que...
Non, c'est pour les pneus, mais
il ruine pas sa course?
Non, le problème en gros, c'est qu'il lui a explosé l'arrière droit de son fond plat.
Quand même, après qu'il ait été touché, Hamilton...
Il était déjà lent.
Et ses pneus étaient à l'agonie, comme il le dit. Enfin, il l'a dit lui-même. On s'est arrêté trop tôt au premier arrêt, du coup, ça a tout décalé vers l'avant, et à la fin, mes pneus étaient morts. Mais
De quoi tu te plains, Dino? Il a une pénalité, il a pas perdu de place.
Non, mais c'est même pas la pénalité. Enfin, moi, c'est vrai que, un peu comme vous hier, je trouvais que c'était de sa faute, puis j'ai écouté dimanche F1, et j'ai écouté l'explication notamment de Franck Montagny, qui, ils ont fait une loop loupe sur ce passage-là. Et ils expliquent en fait que Hamilton, il était vraiment en difficulté avec ses pneus, ce qui fait que en sortie de virage, dans les courbes rapides, il a moins de traction. À ce moment-là, Alonso étant meilleur, il a une plus grande traction, ce qui fait que quand il sort de ce virage-là, il remonte plus vite que ce à quoi il pouvait s'attendre sur Hamilton. Et c'est ce paramètre-là que Alonso a mal estimé et qu'il a tapé. Moi, honnêtement, quand je lis sur certains commentaires que Alonso l'a fait exprès, je vois pas en quoi Fernando Alonso aurait intérêt à briser son aileron et à foutre en l'air un podium possible, alors que, honnêtement, Hamilton était une proie facile avec ses pneus. Donc voilà, je vois pas l'intérêt qu'avait Alonso à faire ça. Pour moi, c'est un incident de course, ça méritait même pas de pénalité, quoi. Enfin,
il s'est pris 20 secondes parce que les commissaires ont dû voir que ça changeait rien. Après,
Oui, c'est une décision, voilà, pour ce qu'ils ont pas réussi à faire l'an dernier, où ils ont été trop cléments, notamment par rapport aux différents incidents qu'il y avait eu en Chine, je crois même d'ailleurs dans les stands entre Vettel et Hamilton, où ils avaient été trop cléments. Là, visiblement, ils ont eu envie de taper du poing sur la table et dire attention, vous faites attention aux courses, etc. Voilà, maintenant, honnêtement, moi, je pense qu'elle se justifie pas du tout, cette pénalité. Voilà, c'est un incident de course, ça en arrive souvent. Je préfère quand même voir des pilotes se foutre en l'air, d'autant qu'en plus, ils sont tous les deux suffisamment pénalisés. Voilà, ruiner leur course par leurs propres moyens, plutôt que la FIA vienne mettre son grain de sel derrière pour... voilà.
Oui, c'est ça. Hein. En même temps, ils se pénalisent déjà tout seuls avec le changement d'aileron. Donc, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il y avait... sorte de double peine, sauf que bon, la deuxième peine n'a servi à rien. Donc c'était pas utile.
Et je pense d'ailleurs que ce genre d'incident entre, je sais pas, Alguersuari et Perez, il y a aucune pénalité derrière. C'est juste parce que là, c'est Alonso et Hamilton, que quelques jours avant le Grand Prix, on a Hamilton qui a dit que son plus grand rival, c'était Alonso. Juste, mais c'est même pas sportivement, il a dit juste par rapport à ma première année, Alonso sera toujours mon plus grand rival. Voilà, donc. Et c'est vrai que on a tous pensé, moi devant la télé, j'étais tout excité en voyant Alonso et Hamilton, j'étais là, ouh, chouette, sympa. Ouais, on est tous comme ça, et c'est vrai que forcément le moindre petit incident va prendre des proportions. Dans les deux cas, même le changement de ligne d'Hamilton, quand on voit ce qu'il a fait l'an dernier avec Petrov et ce qu'il a fait là,
c'était justement par rapport à ça qu'ils ont durci.
C'est pas méchant ce qu'il a fait à Alonso. Puis en même temps, c'est aussi ce que cherche la FIA. Je l'ai dit lors de la dernière émission. Quand on expose un pilote qui est en train de défendre sa position comme une proie aussi facile grâce au DRS et à l'addition du KERS, on peut pas s'étonner que le mec il soit un peu plus virulent. Et bien évidemment que les pilotes ils sont obligés d'être plus agressifs dans leur défense, et moi honnêtement même la pénalité d'Hamilton je la trouve totalement injustifiée.
Après pour Alonso, c'est vrai que c'est un peu sévère, surtout quand on voit que Buemi n'a pas été pénalisé en Australie, alors quand même qu'il a fracassé complètement la voiture d'Alphed. C'est vrai que c'était un peu sévère.
Donc, apparemment on s'en est tous rendu compte après.
Oui. Enfin, c'est surtout Alguersuari qui veut dire c'est pas moi le méchant.
C'est dommage pour Alonso parce qu'en plus il fait une plutôt bonne course.
Comme en Australie.
Il arrive à tirer quand même l'équipe en course. Tu l'as dit, le problème c'est les qualifs pour cette Ferrari. Parce qu'en course, surtout parce qu'il y a Alonso, hein, ça c'est clair. Il a pointé quoi à la troisième place. Alors il a bien bénéficié, c'est vrai, du mauvais départ de Weber, par exemple.
Les deux Ferrari, quand même, parce que les deux Ferrari font un mauvais départ. Si elles font un mauvais départ, c'est juste parce qu'elles sont juste derrière Weber dans la ligne.
Bah oui, forcément.
Sont totalement gênées. On le voit sur l'écran. Les deux Ferrari sont totalement gênées par Weber qui fait un mauvais départ parce qu'il a pas le KERS et que voilà, c'est le KERS est criant quand on voit les images en caméra embarquée. Il s'élance comme les autres. Et puis au bout de quelques secondes, je crois que le KERS il est activable à partir d'une certaine vitesse. Tu vois les autres, ils s'entendent partir en flèche. Et tu vois tout le monde qui passe autour et voilà. Donc c'est vrai que les Ferrari sont gênés, hein. C'est comme quand un pilote reste coincé sur la grille, le temps que tu l'évites, il y en a forcément trois qui sont passés par la gauche.
Mais si tu veux, même après sur le reste de la course, il fait plutôt une bonne course. Justement, on disait il était un peu coincé à la cinquième place au niveau de la qualif. Et c'est con parce que justement. Il aurait pu dépasser Hamilton à la régulière, donc il aurait peut-être pu pointer en finale, peut-être pas sur le podium, mais peut-être quatrième, ce qui est déjà pas mal, hein, réussir à gagner une place à ce niveau-là.
S'ils arrivent à mieux se qualifier, les courses sont différentes parce qu'ils partent de trop loin et forcément, on le voit, ça fait deux fois que Alonso se fait piéger au départ en Australie, il est piégé parce qu'il part à l'extérieur et là parce que voilà, il y a un Weber qui avait un problème de car juste devant lui et que bah voilà, ça le piège alors que les Lotus font un meilleur départ à côté, etc. Enfin voilà, ça complique. C'est mathématique. Enfin, tu vois Vettel même sans le Kers, il est parti en pole, il n'a pas été gêné. Il a eu la chance d'avoir Heidfeld qui s'est glissé entre lui et Hamilton. Et il n'a pas du tout été gêné de la course. C'est un avantage, quoi. Partir devant, c'est un avantage.
Vettel avait le Kers pendant une vingtaine de tours.
Non mais c'est en fait, ça n'a même pas de rapport avec le Kers. C'est juste voilà, partir devant, être sur la première ligne, c'est un avantage.
Tout dépend du côté où t'es.
Oui.
Parce que là, oui. Le côté gauche aussi. Était vraiment handicapant.
Alors que ça devait être en plus la ligne
de départ. Oui. Enfin, oui.
Mais c'est le jour d'avant à cause des dépôts de gomme.
Des pots de gomme, puis il y a eu un accident apparemment aussi sur le premier virage dans une course auparavant. Là, c'est bien en plus que ça a été fait en concertation avec les pilotes et tout.
Pour une fois.
Oui.
Oui.
C'est ce qu'il disait dans Dimanche F1. Il disait par rapport à certaines années au Japon.
Eh bien, dans ce cas-là, on va passer à la cinquième place. Un type qui devait se sentir chez lui, puisqu'on sait très bien que chez lui, il fait toujours gris et qu'il pleut tout le temps.
Hamilton.
C'est Hamilton. Tu vois comme quoi mes clichés marchent super bien.
Ouais, moi je te rappellerai juste qu'Antoine, il a peut-être le classement sous les yeux.
Même pas. C'est juste que j'ai pris le mien, en fait. C'est
tout. Ah non, tu l'as mis cinquième, en fait.
Donc Hamilton, moi je l'ai mis quatrième. Dino, tu l'as mis combien, Hamilton?
Sixième.
Oh, t'as été méchant.
Bah, par rapport à Button, enfin voilà, il suffit de regarder le comparatif, je crois qu'ils sont sur la même stratégie. Button, il arrive à finir la course, il finit deuxième. Hamilton, oui. il est à la ramasse sur la fin de course, quoi.
Non, c'était surtout très criant, c'est que Button avait des gommes encore assez fraîches à la fin de course, alors qu'Hamilton, 10 tours avant la fin, bah justement, avant qu'il se fasse dépasser par Alonso, il était 3-4 secondes plus long, quoi.
Voilà, enfin
c'est vraiment... C'est toute la différence de style qu'on connaît entre les deux, là. Ça s'exprime complètement, là.
On a eu droit à ce qu'on avait dit cette intersaison, c'est-à-dire que Button allait avoir un avantage dans la gestion des pneus, en tout cas en début de saison.
Le truc qui a changé aussi, c'est Button était, suivait le groupe pendant la première partie de course. Or, Hamilton, il faisait tout pour dépasser Heidfeld et ne pas se laisser trop distance par Vettel. Du coup, il a bouffé vachement vite ses gommes. Et après, il s'est fait avoir. Ses pit-stops étaient à chaque fois rapprochés, tout ça.
Alors c'est vrai que lui, Hamilton, il a eu sa pénalité et que lui, malheureusement, ça lui a fait perdre une place. Franchement, c'est
pour deux secondes. En plus.
Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai. Non mais parce que cette pénalité, je veux dire, l'an dernier, souvenez-vous des vagues qu'il faisait.
Oui.
Je veux dire, là, c'est rien. Hein. C'est-à-dire que l'an dernier, c'était Hawaï, hein. Là, c'était Dunkerque. Et Dunkerque, il s'est quand même pris 20 secondes.
Oui, mais c'était. C'était contre Petrov, là c'était contre Alonso, donc comme on disait tout à l'heure, faut créer la petite polémique.
Voilà.
Non, puis bon, ils ont décidé d'être super beaucoup plus carrés sur les changements de ligne. C'est très con parce que franchement là, c'était pas du tout.
Il a déjà été rappelé à l'ordre en Australie, hein. Il y a ça aussi. Fait qu'il ait été rappelé à l'ordre en Australie et qu'il ait déjà fait du waving l'an dernier en Malaisie, ça les commissaires ils l'ont pas oublié.
Tant l'an dernier c'est difficile à oublier, hein, parce que vu les vagues qu'ils faisaient.
ça ressemble un petit peu à ce qu'a fait Vettel en fin de course. D'ailleurs, j'ai eu peur, tu sais, j'ai eu peur qu'en fin de course, ils se mettent à nous sortir une pénalité pour waving, pour Vettel en disant, ouais, mais vous avez vu vers la fin, il a changé plusieurs fois de ligne.
J'ai peur qu'il se mette dans le mur, moi.
Ouais, Hamilton, c'est con parce que, à la limite, s'il se fait pas dépasser par Heidfeld sur le départ.
La course est différente.
La course est différente, est-ce qu'il peut pas arriver à être dans le rythme de Vettel? Pour l'instant, depuis deux courses, ils sont pas très loin quand même chez McLaren. Hein. Ils avaient une évolution pour la Malaisie en plus. Donc c'est bien aussi cette capacité de McLaren à faire des évolutions quand même très rapidement dans des conditions particulières, parce qu'on sait qu'ils aiment pas trop quand même faire des gros changements quand ils sont comme ça aussi loin de leur base.
McLaren a plus de potentiel de développement, quoi.
Ah, oui.
Pendant l'été, c'est Hiverno, ils avaient créé un système d'échappement super complexe qu'ils arrivaient pas à faire fonctionner correctement. Donc, ils sont revenus à un style Red Bull. Et du coup, ils sont à zéro au niveau des échappements.
Ouais.
Alors que les autres ont quand même bien travaillé dessus. Donc là, ça leur fait quand même un bon potentiel de développement. Après, faut pas oublier quand même, énormément de lignes droites pour le Grand Prix de Malaisie. et avec le moteur Mercedes comparé au moteur Red Bull, ça a quand même bien dû les aider à se rapprocher. Et en Chine, ce sera pareil.
Moi, je pense qu'on aura toujours Red Bull devant et qu'on aura une espèce de yo-yo de McLaren qui, sur certains circuits, se rapprochera comme ils l'ont fait là en Malaisie, et sur d'autres seront plus au niveau de Ferrari. Voilà. Ce qui est inquiétant, c'est que Ferrari ne fasse pas non plus yo-yo, quoi.
On va voir que ça fera peut-être comme l'année dernière où McLaren va s'effondrer à la moitié de la saison. Par contre, oui. une victoire de Button au Canada, ce serait jouable.
Oui.
L'année dernière, les pneus s'effondraient au rythme des Pirelli à la course là. Alors, des Pirelli au Canada.
Ils vont s'effondrer comme des Kumo.
Ils vont faire trois tours en pneus durs. Il y aura plus de pneus.
Ah bah, les mecs vont pas faire d'essai. Ils vont directement aller en plein essai.
Ils vont faire un tour de sortie à chaque essai. Et puis voilà. Ils vont faire trois tours en qualif.
Pas d'essai. Pas de qualif, à part les HRT qui feront un tour, comme ça on aura des HRT en pôle. Ils seront dans les 107%.
Ce sera pas un problème, puisqu'ils vont se faire dépasser au premier virage.
Oui.
Oui, enfin, s'ils calent pas sur la piste.
En même temps, la course pourra faire que 30 tours, hein. Parce qu'on aura cramé tous les pneus au bout de 30 tours, hein. C'est un peu con, par contre, hein.
Bah, vu qu'il y a 11,
Qu'il y a déjà un programme chez Pirelli pour ramener par sécurité plus de pneus au cas où il faudrait s'adapter en termes de quantité au Canada. Voilà, je pense que ils auront prévu une certaine marge, même si les quotas officiels ne changeront pas. Voilà, si jamais il y a besoin, la FIA pourra dire voilà, on donne un train de pneus au plus aux équipes pour assurer le coup, quoi.
Bah, c'est ce qu'ils font déjà maintenant, donnant deux trains de pneus.
Oui, mais ça c'est pour le développement officiellement.
À noter que Hamilton, combien de points il a eu Hamilton? Il a eu 633. Et il a même perdu une place dans le classement en 24 heures.
Ouais, il l'a gagné et il l'a reperdu derrière. C'était vraiment.
Voilà. Et contre qui il l'a perdu?
Alors là, je t'attends. Eh bien,
il l'a perdu contre un surfeur.
Oh, c'est pas terrible, hein. Oh, ça c'est tout.
Ouais, je sais, mais sortir un truc sur Crocodile Dundee. Mais en même temps, Mark Webber, j'ai du mal à l'imaginer avec un chapeau, avec des dents de truc, avec un gros couteau et tout.
Moi, j'aurais plutôt dit le VTTiste blessé, mais bon.
Ouais, enfin, on ne fait pas du VTT qu'en Australie, quand même.
L'éleveur de kangourou.
Ah non, ça c'est Petrov.
J'aurais plutôt dit le numéro 2 de la boisson énergétique.
Donc, Mark Webber, 4e.
Il y a le boule de Red Bull. Vettel c'est le raid et l'autre c'est le boule, hein.
Bon, le problème avec Weber c'est qu'il peut pas dire qu'il est pas numéro 2 parce que c'est marqué sur sa voiture. Mais... et en même temps j'ai envie de dire il est numéro 2 en ce moment, il peut se plaindre autant qu'il veut. Voilà, c'est bizarre, une telle différence entre les deux.
Je trouve pas ça bizarre, moi. Quand on regarde les comportements de Vettel, etc., je trouve Vettel, il est dans une dynamique. Enfin, c'est impressionnant. Il est d'une maturité incroyable. Voilà. Enfin, moi, j'ai l'impression de redécouvrir un nouveau Vettel, quoi. Quand je le regarde, quand je lis ses discours et ses déclats, c'est assez.
Ce qui illustre le mieux ce que tu dis, c'est ce qu'il a dit à ses ingénieurs quand il a remporté la course. Les gars, on garde la tête froide. C'est que 2 courses sur 10.
Ouais. Et il a même dit qu'il y avait encore du travail, que c'était encore perfectible.
Non, mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que Weber, on va dire, truste la deuxième place. Mais même pas.
Non, justement, il veut prouver que c'est pas un numéro 2. Il va être troisième.
Il a pas le choix, voilà.
Avoir du mal cette année.
Voilà, pour le moment, il a 5, il accumule du retard.
Départ très moyen, malheureusement.
Du au Kers.
Bah oui, tout à fait, ce qu'on disait. Pour le coup, voilà, c'est pépin de Kers.
Mais même en qualif, hein, il est assez loin, entre guillemets. Je crois qu'il est à 4-5 dixièmes.
Oui.
Voilà, enfin, c'est à matériel égal, il doit pas être à 4-5 dixièmes. Le truc, c'est que l'an dernier, il arrivait à faire la différence psychologiquement en course, parce que même en qualif, il était dominé. Et en course, il arrivait à faire la différence psychologiquement. Là, je suis pas sûr qu'il arrive à prendre Vettel comme il a réussi à le prendre l'an dernier psychologiquement.
Ouais.
Parce que pour le moment, Vettel, il fait à peu près le même début de saison que l'an dernier. Hein.
Avec la fiabilité.
Là, pour le moment, Vettel tout lui réussit. Je vois pas comment, de retour en Europe, Weber pourrait refaire le coup de l'Espagne de l'an dernier, lui mettre un petit coup de canif psychologique. Honnêtement, là, je vois pas.
Vettel non plus doit pas beaucoup voir Weber parce que généralement il est assez loin.
Bon, il se croise dans les stands.
Ouais, oui, c'est à peu près ça.
Mais ouais, Vettel il continue vraiment la saison comme il avait terminé celle de 2010. Quoi.
Mais je crois que là, si on fait le calcul, je crois qu'il est à 5 victoires en 6 courses.
Déjà, il a 4 de suite, ça c'est sûr.
4 de suite, ouais. Et 5 victoires en 6 courses. Et il aurait dû avoir la 6e s'il n'avait pas eu l'explosion du moteur en Corée.
Ouais. C'est.
Si le moteur n'avait pas pété en Corée, il aurait pas perdu une course ou une qualif depuis Singapour. Ça remonte quand même à loin, quoi.
Non, Weber, finalement arrache, ouais, on peut presque dire arrache, quatrième place.
Il fait une super course, honnêtement. Enfin, il fait pas.
Mais ouais, parce que il perd, mais en fait, il reprend quand même après.
Il fait pas une super course en termes où il explose tout le monde, il repart de la fin, il fait une remontée. Il a une course très difficile, mais il est encore une fois sur une stratégie un peu décalée, etc. Et à la fin, oui. Voilà, il s'en ressort très bien. Moi, j'y croyais pas à la fin, quoi. Les 10 derniers tours qu'il fait, il fait 10 derniers tours. Je crois qu'il remonte Massa, je crois qu'il remonte, il passe Hamilton, ce qui est pas trop difficile. Il profite de la défaillance d'Alonso. Il arrive dans
les échappements. Et il attaque sur la fade.
Voilà, enfin c'est.
Et pas dans les échappements parce que sinon il l'aurait déjà passé.
Oui, c'est vrai. Ça, tu peux pas dire ça de la.
C'est vrai. C'est ce qui m'a choqué dans les commentaires pendant le Grand Prix, c'est il est dans les échappements de la Lotus Renault. Non.
Ah, donc il est à côté.
Voilà. Pour être dans les échappements, faut y arriver de face, quoi. C'est pas trop conseillé quand on fait de la Formule 1. Quoique, bon, Liuzzi et Schumacher l'ont fait à Abu Dhabi, mais bon.
Oui, ouais, même là, c'était pas conseillé, hein.
Et donc, à noter, donc, si Hamilton avait 633 points, Weber en a 659. Donc, vous voyez, c'est assez serré. Et comme on l'a dit, ça a bougé sur la dernière journée. On passe au podium?
Oh, non.
On passe au troisième. Je ne ferai pas un point Godwin. Non. Hein. Même si ces gens-là ont fait beaucoup de tourisme il y a 70 ans, en troisième, nous avons Nick Heidfeld.
J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire, mais rien.
Tu sais pas ce que c'est qu'un point Godwin?
Non.
Bah, sur Internet, quand vous avez une dispute, vous avez deux gens qui ne sont pas d'accord l'un contre l'autre.
Oui, c'est une dispute.
Et voilà.
Voilà. Non, mais, au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui va faire une référence nazie. Ne demandez pas pourquoi. Non, ne demandez pas pourquoi. Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui fait une référence nazie. C'est ça ce qu'on appelle un point Godwin.
Ah bah, c'est voilà.
Donc, Heidfeld, troisième. Alors, que j'ai mis troisième. Antoine, tu l'as mis quatrième. Dino, tu l'as mis combien, Heidfeld?
J'ai mis cinquième.
Tu l'as mis cinquième seulement.
Oui, il fallait qu'il mette Alonso tout en haut.
Non, c'est pas vrai. C'est Alonso, c'est le quatrième, il est juste devant.
Et tu vois, donc déjà, très bon départ. Ça, on l'a dit.
Oui, il y a que ça.
Et ce qui est étonnant, c'est que...
C'est pour ça que moi, j'ai mis cinquième, honnêtement. D'accord, il fait un très bon départ, mais en dehors de ça, après, il bouchonne un peu, et puis bon, sur le reste de la course... Ils sont encore une fois, c'est un peu opportuniste. Voilà, c'est un très bon rythme de course. Bah, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Alors que je trouve que avec son matériel, par exemple, Alonso a fait plus de boulot et avec la course de galère qu'a eu Weber. Voilà, pour moi, Weber méritait plus d'être sur le podium que Heidfeld. Voilà. C'est...
Après, la grosse erreur d'Heidfeld, c'est d'avoir écouté son ingénieur quand il a commencé à pleuvoir. Il aurait mieux fait de rentrer.
Oui.
Ouais.
Parce que c'était à Paris, il l'a perdu, ça lui a fait perdre 20 secondes. Quoi.
Et heureusement, il a réagi vite. Hein. C'est ça ce qui est terrible quand tu te rends compte. Il réagit très vite et pourtant, il a perdu un temps considérable.
Et il a pris 3 tours à réagir quand même. Il perdait 5-6 secondes au tour.
Donc Heidfeld qui a marqué 889 points. Comment ça s'envolait les gars? Attention.
Ah bah Petrov qui est arrivé. Hein.
Non, mais quand même, podium, là, pour le coup, il va rassurer les gens de chez Renault, parce que c'est vrai qu'après sa course en Australie, c'est un peu dément.
J'arrive même pas à comprendre que chez Renault, on se soit laissé aller à critiquer Heidfeld, quoi. Enfin, quand t'entends des fans dans les commentaires, etc., de Formule 1 le dire, bon, d'accord. Mais quand même, les mecs de chez Renault qui en viennent à dire ça de leur pilote et que ça s'entende auprès de journalistes, bah vraiment, d'abord, ils n'ont pas le choix, ils ont que lui sur le marché en ce moment. Et puis, honnêtement, il n'a pas grand-chose à se reprocher en Australie.
Bah, les deux erreurs qu'il a fait sont pas de sa faute. La première, s'il a un problème de caisse, s'il est obligé d'attendre la fin de la Q1 pour démarrer.
Oui.
Puis après, en course, il se fait atomiser son ponton par Bonnie. Quoi.
D'ailleurs, messieurs, comme on parle de Lotus...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Alors, je voudrais émettre un drive-thru contre Lotus, mais pas contre la Lotus dont on parle, puisque ce ne sera pas Lotus Grand Prix, mais ce sera Team Lotus. Voilà, c'est juste que j'ai oublié de le mettre au moment où on a parlé de Team Lotus assez brièvement. voilà, donc, ça va être assez rapide. C'est juste parce que je ne comprends pas vraiment la stratégie de Team Lotus qui consiste à faire rouler le vendredi matin à un jeune pilote. Last weekend, c'était Valsecchi qui a roulé. Dans la mesure surtout où on sait qu'ils ont des problèmes de fiabilité depuis le début de l'hiver et que voilà et qu'ils cherchent à faire un bond en avant, en tout cas en début de saison, tant que les performances on peut encore les améliorer sensiblement, etc. Je ne comprends pas qu'on donne le volant de la deuxième Lotus à un jeune pilote, que ce soit en Australie ou cette fois-ci en Malaisie. À la limite, ça aurait été Fauzi, j'aurais compris. Je me serais dit, voilà, c'est pour donner du temps de... Voilà, c'est pour faire rouler un Malaisien.
Fauzi n'est plus chez Lotus.
Oui,
il est chez Lotus.
Oui, voilà, c'est vrai. Bon, à la limite, j'aurais compris. Là, mais là, mettre Valsecchi, ça veut strictement rien dire. Ce que je comprends pas, en plus, c'est que on a Valsecchi dans les déclarations de vendredi qui dit... Que en fait, il a pas vraiment attaqué, il a pas vraiment roulé très fort parce qu'il voulait préserver la voiture pour Kovalainen. Et il se trouve que manque de bol, Kovalainen prend la voiture la deuxième séance d'essai libre, il fait 4 tours et il arrête sa séance. Donc Kovalainen, finalement, il a quasiment pas roulé. Quand on voit que le Grand Prix que fait Kovalainen, on se dit c'est bien de vouloir donner du temps à des jeunes pilotes, surtout s'ils ramènent de l'argent. Mais ça peut attendre la fin de saison quand les écarts seront déjà faits, quand la voiture aura trouvé ses performances, etc. Là, franchement, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Et je comprends pas cette politique. Enfin, je pense que ils rendent leur week-end un peu plus difficile et c'est un luxe qu'ils peuvent pas se permettre pour le moment.
D'un côté, c'est comme Toro Rosso qui prend Daniel Ricciardo. Qui lui font d'ailleurs louper des courses en Formule Renault 3.5.
Oui.
Donc empêche Buemi ou Alguersuari de prendre la part à la séance du vendredi matin. Même si dans
Ricciardo,
leur cas,
il le prépare aussi, hein.
Mais voilà, alors que.
Il y a un peu ça.
Bah, à la mi-saison, Alguersuari va virer de chez Toro Rosso.
Enfin voilà, c'était mon petit drive-through sur Team.
Non, mais.
Ça me fait comprendre avec Lotus
Grand Prix. T'as raison, oui. C'est vrai qu'ils ont autre chose à foutre que de mettre leur
promotion. Surtout que là, c'est pas vraiment pour la promotion. L'an dernier, ils ont fait rouler Fauzi parce que Fauzi, c'était à domicile, bon, c'était pour le coup. Puis ils n'avaient pas forcément grand-chose à jouer non plus. Là, cette année, c'est vrai qu'ils ont quand même des ambitions. Ils ont quand même une intersaison qui a pas été facile. Ils ont des retards de développement et fiabilité. C'est pas forcément le moment pour s'offrir le luxe de faire rouler des pilotes juste parce qu'ils payent leur volant, quoi.
Sinon, si on repasse de Team Lotus à Lotus, enfin quand même qu'ils règlent leur truc là, parce que sur Edfel, non, rien d'autre à rajouter.
Ah non, alors sur Edfel, on peut juste dire que Margot Laffitte trouve qu'il a une jolie démarche.
Elle le trouve physiquement intelligent.
Voilà.
Mais du côté d'Edfel, après, pour les remarques, dont ce qu'on disait tout à l'heure, pour après le Grand Prix d'Australie, je pense que c'est surtout que les gens se disaient « Merde, Kubica aurait quand même fait largement mieux. » Et c'est pour ça que les réactions ont été aussi virulentes, je pense.
Ouais. Bah, quoi que je suis pas sûr que cette année, Kubica aurait fait mieux.
Si.
Bah, avec une main, c'est pas terrible.
Oh, c'était pas violent.
Heureusement qu'il n'y a plus Dave Duct.
Oui, voilà.
On passe à la seconde place.
Et vous allez savoir
qui est donc.
Vous allez donc savoir qui est leader, hein, par déduction.
Forcément par déduction.
Bah non.
C'est un Anglais.
Oui, en même temps, s'il est pas classé, je comprends pas.
Ouais.
On l'a pas vu ce week-end, non?
C'est vrai.
Il est loin devant.
C'est vrai, on l'a pas beaucoup vu.
C'est un Anglais. C'est Jenson Button. 943 points. Très bonne course. Et puis, comme on l'a dit, il a fait parler, il a fait parler ses pneus. En tout cas, sa qualité de pneus, justement, par rapport à Hamilton.
On s'en doute qu'il a pas fait parler ses pneus. Bonjour, je suis en plein Pirelli, je commence à avoir mal, là.
Et en plus, que...
On va couper le montage, hein.
Oh, je sais pas, je vais réfléchir. Moi, les miennes, je les sucre, mais celles des autres, j'ai tendance à les garder. Il a fait une première moitié de course pas forcément très, très étonnante. Et si, finalement, c'est au regard de la défaillance d'Hamilton que on a pris conscience de ce qu'était en train de faire Button. Et c'est rétrospectivement, les courses cette saison, faut vraiment s'attendre à dire, voilà, faut vraiment qu'on attende la fin de la course pour pouvoir avoir un vrai, véritable panorama de toute la course.
Il n'y a pas que ça. C'est Button, en gros, il a tenté quelque chose sur son aileron avant pendant le tour de formation, sauf qu'il s'est loupé. Donc à chaque pit stop, il était obligé de demander à ses mécanos de changer de tirer de la chaussure sur son aileron avant.
Ouais.
Donc déjà bravo aux mécanos pour faire ça en 3 secondes. Et en fait, après, ses pneus durs marchaient beaucoup beaucoup mieux que ce qu'il a eu en début de course. Donc pour ça qu'à la fin, il pouvait attaquer tranquillement et revenir sur Vettel petit à petit. Puis ouais, l'erreur des mécanos pour Hamilton lui a donné un petit coup de pouce. Ouais.
Mais c'est bizarre là, on a pas tendance à dire qu'il est favorisé. Alors que chez Red Bull, tu vois, dès qu'il y a une erreur, on dit, voilà, Vettel, il est favorisé. Mon problème, c'est que les erreurs, elles bénéficient un peu souvent à Vettel, quoi.
C'est comme les gens qui font, ah oui, mais en gros, Weber, il a une voiture, une voiture version B. Ouais. Tandis que, ils vont donner la bonne version, que dans 4 ou 5 courses pour être sûr que Vettel gagne le championnat,
quoi. Bien sûr.
Bon.
Bien sûr, ouais.
Non mais en tout cas Button qu'on a vu voilà, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a vu dans la configuration où l'attend, c'est-à-dire économe avec ses pneus, pas forcément très flamboyant en piste, mais comme économe avec ses pneus, il avait déjà été plutôt bon en Australie mais ça avait pas payé. Voilà, c'est
bah en Australie, c'est surtout vis-à-vis de sa pénalité qu'il a vraiment fait oublier, quoi. Sinon il était aussi sur le podium.
Ouais, puis tout ça arrange Vettel.
Oui. Oui. Bon, en même temps, il a que 24 points d'avance.
Au bout de deux courses.
Pour l'instant, il manque que les meilleurs tours en course, hein, pour avoir la totale. Ouais.
On passe au premier.
Hein. Enfin, on disait que Vettel avait tout. Voilà. Il a même la place de leader. Ça.
Il y a 1500 saucisses en Allemagne, mais lui n'en est pas une saucisse. Oh non.
Vous vous rendez compte que c'est quand même cet homme connaît le nombre de sortes de saucisses qu'il y a en Allemagne. C'est quand même effrayant.
Voilà, c'est effrayant. C'est le très bon adjectif, effrayant.
Mais les a-t-il toutes goûtées ?
Non, quand même pas. Faut pas déconner non plus. Et donc, 1376 points. Donc, non seulement il est premier, mais il a 400 points d'avance sur Button.
Il a paru moins facile que, enfin, ça a semblé moins facile qu'en Australie, mais en même temps, quand on regarde la course, on n'a pas l'impression qu'il ait été dérangé une seule seconde. Voilà.
Oui, il y a ce moment où il s'inquiète un peu tout seul, où en effet, où il demande, oui, je peux utiliser le.
C'est encore une fois, c'est comme en Australie, il y a un moment donné où Hamilton remonte. Il revient, voilà. Je crois, à 3 secondes 7.
Puis là, lui, il claque le meilleur temps.
Oui, et puis il dit, est-ce que je peux utiliser le Leclerc? Le mec lui disait, non, pour le moment, tu l'utilises pas. Et au bout de 3-4 tours, il a récupéré déjà 7 secondes, quoi. Donc, ça veut quand même dire que...
tout seul, pour rien, quoi.
Quand il, voilà, il panique, mais bon,
Je pense que le seul moment où il a été inquiété, c'est quand il a vu la Lotus d'Elfed à côté de lui, au premier virage.
Ouais.
Ouais.
Comme il dit, j'ai vu un truc noir dans le rétro, j'ai regardé, c'était le fade. Donc après, j'ai accéléré, j'ai fait des témoins rapides, j'ai géré. Quand on voit qu'il avait déjà 2 secondes d'avance à la fin du premier tour,
oui,
on peut le croire.
Mais c'est ça qu'on se demande, c'est à un moment donné, est-ce qu'ils vont arrêter de gérer, quoi. Moi, j'aimerais juste, à un moment donné, même si c'est pas forcément ce que j'aime comme style de pilotage, mais j'aimerais qu'à un moment donné, quand même, pour qu'on ait une vraie idée, ils disent, bon, allez, là, cette course-là, on l'a fait à fond, on gère plus rien.
Monaco.
Et là, ils mettent un tour à tout le monde, quoi.
Monaco, de toute façon, ils auront les pneus super tendres de Pirelli, normalement.
Ouais.
Alors, les temps-là, ils vont...
Ouais. C'est vrai, il sait pas pour l'instant à quoi ça sert, le DRS.
Oui, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi.
Course, quoi, bien sûr.
Il l'a utilisé sur Massa. Après son arrêt au stand, il devait dépasser Massa. Oui. Il l'a utilisé.
Une fois, hein.
Et c'est pour ça, il se plaint qu'il y a trop de boutons, mais bon, pour l'instant.
Oui.
Caliche. En course, c'est bien, il peut profiter du paysage, bientôt il prendra des photos.
Ouais, bah oui.
Même si c'est vrai que, même globalement, comme tu disais, Dino, il a paru moins facile, enfin, c'est dingue. Il a tout le temps été devant, enfin, sauf sur les arrêts.
Mais c'est le truc, c'est qu'il a connu quasiment la même course qu'en Australie, une course relativement tranquille, mais on s'attendait tellement à ce qu'il soit contredit par les McLaren, et c'est vrai que les McLaren en course, elles ont l'air moins performantes que ce qu'elles sont en qualification, contrairement aux Ferrari qui sont un peu plus performantes que ce qu'elles sont en qualification, que voilà, finalement, il est pas véritablement gêné, quoi.
Oui. Bah, c'est en qualif qu'il a vraiment eu du mal, quoi. Bah, de toute façon, on a vu les réactions sur le muret des stands.
Ils ont eu peur.
Ouais. Faut dire, Hamilton avait quand même fait un temps canon.
Alors, au classement pilote du SAV. Eh bien, sans surprise.
Il va être intéressant, ce classement.
Bon, Sébastien Vettel est en tête avec 50 points. Mais derrière, alors un Vettel, ça vaut deux. On peut dire un Vettel, ça vaut les deux pilotes McLaren, parce que Button a 26 points et Hamilton en a 25. À noter, quatrième Petrov, ex aequo avec Alonso, avec 20 points.
Encore une fois, Alonso lui fait le fesse.
Au classement constructeur, Red Bull est devant, 78 points, devant McLaren 51 et Lotus Renault 35. Et oui, Ferrari n'est que quatrième avec 28 points.
En même temps, il n'y a pas de honte à être derrière Lotus. Ouais. C'est ce qui nous sauve. Heureusement qu'il y a cette histoire de nom. Hein.
Ouais.
Dans l'autre classement, Sébastien Vettel aussi à 50 points. Grande surprise. Jenson Button en a 26.
Comme dans le...
Et ex-aequo, troisième ex-aequo, Lewis Hamilton et Mark Webber, perdent 2 points. Et Alonso aussi à 20 points dans l'autre classement.
En fait, ce qui est drôle, c'est le classement du SAV, finalement, il est très proche du classement réel.
Il y a quelques petites différences, mais pour l'instant...
Et vous allez voir, quand Vettel aura gagné 10 courses d'affilée, vous verrez que Vettel, vous le mettrez moins souvent devant. Par expérience, ouais. Quand on commence à dominer, généralement, vous commencez un petit peu à banaliser la performance et à le mettre seulement 3e.
Chez les constructeurs, Red Bull 72 points, McLaren 48. Et là, par contre, Ferrari est devant Renault, Ferrari 36 points, et Lotus Renault 30 points. À noter quand même Mercedes, qui est 8e avec 2 points.
Ouais.
Ouais, comme en vrai, quoi.
Et grâce à Schumacher, voilà. D'ailleurs.
Grâce à Schumacher, oui.
Je tiens à le dire.
Alors, on va passer au fait marquant.
Oui. Et nous vous avions proposé de choisir, avec la dernière émission, le fait marquant du Grand Prix d'Australie. On va d'abord revenir sur ce résultat-là. Vous avez été 70 à participer au sondage, et on vous en remercie. Alors, est arrivé en troisième position la proposition, si je me souviens bien, de notre guest, qui était Fab, à savoir l'envol de Vettel grâce à Red Bull, qui a réuni 12 voix pour 17,14% au total. En deuxième position est arrivé proposition, je crois, l'inefficacité des ailerons arrière amovibles, 18,57% pour 13 voix. Et enfin, Shinji, tu peux être fier, tu remportes la première manche.
Non, mais je gagne tout cette semaine, moi.
Tu remportes la première manche puisque ta proposition, le splendide résultat de Petrov, réalise un taux de réussite 64,29% pour un total de 45 votes sur 70 votes exprimés. C'est bien, Shinji, bravo.
Oui, je suis content, beau score.
Donc, on va se servir de cette hiérarchie-là pour définir l'ordre de choix. Ça, c'était une grande question. Hein. L'ordre de sélection du fait marquant du Grand Prix de Malaisie que vous allez retrouver en sondage, bien évidemment, avec l'émission. Et comme c'est la proposition du guest qui est arrivé en dernier, Antoine, c'est toi qui vas avoir le premier choix. Quel est ton fait marquant du Grand Prix de Malaisie ?
C'est l'inefficacité, enfin, surtout les problèmes de fiabilité liés au KERS.
C'est vrai qu'il y en a eu pas mal.
Il y a quand même Mercedes, Red Bull, il y a les Force India aussi. Et
on peut même rajouter à ça
beaucoup
le problème de, les problèmes d'aileron. Il y a eu plein de pépins techniques ce week-end.
Oui. C'est surtout la fiabilité en ce début de saison qui est.
Ça fait du bien.
C'est pas génial.
Ça fait du bien quand même de revoir
la
fiabilité
c'est vrai
comme ça, fragile. Moi j'aime bien.
Enfin, Williams s'en serait bien passé, mais bon. Rosberg aussi.
Et toi, Dino?
Moi, je mettrais. C'est pareil, c'est important. Ça concernera les Ferrari.
L'inefficacité des Ferrari.
Non, c'est les Ferrari qui confirment leur méforme.
Alors, moi... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il s'est vraiment passé plein de trucs.
Donc, ça va être intéressant cette saison, ça.
Qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de continuer un peu sur Petrov cette semaine.
Oh. Ah oui, ah c'est... parce que si il sait que le côté sensationnel, ça marche bien.
Alors, je vais dire le saut de cabri de Petrov.
Ah.
Faut dire, la réputation de Petrov fait un bond en avant. Comme lui.
Bon, il manque pas de ressort. Hein.
Par contre, il prend des mauvaises directions. Mais ça va, il arrive assez bien à prendre les choses en main.
Oui.
Comme les volants.
Et il paraît que c'est une vraie crémaillère. Oh, on va chercher des trucs très longs.
Et puis en plus, franchement, quand il y va, il a vraiment le nez dans le guidon.
On va passer au concours.
Oui, le concours top proposition. Alors, c'est la grande question. Antoine, as-tu compris le principe de ce concours?
Pas totalement.
Ça se voit, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a participé.
Bon.
Donc, on va d'abord commencer par vous rappeler la question que vous avez posée. Vous allez voir, dans l'application, ça devient simple, en fait. Enfin, on espère.
Enfin, faut dire, la dernière fois, on nous avait promis une explication simple. Ça a duré 5
minutes.
C'est
vrai que c'est toi, Tino, qui l'a fait, l'explication.
Non, mais non, je suis même pas sûr.
Et faut dire que je vais représenter un peu les auditeurs, mais c'était un peu confus.
Oui, mais c'est un jeu qui est très confus. Historiquement, oui. Voilà, c'est sa force.
C'est, voilà.
Mais là, vous allez voir.
Comprendre comment ça marche, c'est déjà gagner
voilà.
Un peu à ce jeu.
C'est mériter une part du cadeau. Alors, nous vous avions posé la question suivante lors du Grand Prix d'Australie. À savoir, à combien de Grand Prix Pirelli a-t-il participé depuis ses débuts, y compris celui de Melbourne? La réponse était, Shinji, est-ce que tu l'as?
Alors, moi, je l'ai. Je peux demander à Antoine, peut-être, qui sait.
Oui, Antoine.
Est-ce que tu sais?
Eh ben, je vais demander l'avis de l'audience. Hein?
Tu prends le 50-50?
J'oserais même demander le coup de bigot une proximité.
Le donc, chiffre, c'était 200.
Alors, 201 en incluant Melbourne.
Oui, 201 en incluant Melbourne.
Mais ça faisait 202, là, avec...
Je suis admiratif devant ta perspicacité.
Oui, t'as vu, hein, c'est impressionnant. Hein. Donc, nous avons eu une réponse de quelqu'un qui est habitué au concours de proposition, donc c'est pas étonnant, puisque c'est Globen. Hein.
Donc là, s'il vous plaît, normalement, on a juste les questions et on doit les choisir. On doit choisir.
Non,
une
attends,
des questions.
je vais faire, s'il te plaît.
Ouais.
Pour que ce soit bien clair. Alors, normalement, s'il y avait eu plusieurs personnes, j'aurais posé, puisque normalement, vous, avec votre réponse, vous envoyez une question pour le Grand Prix de Malaisie. Donc, j'aurais posé les différentes questions à Shinji. Il aurait choisi la meilleure question.
Sachant que je suis pas mis au courant.
Voilà, mais évidemment, puisque c'est tenu dans le secret. Cette question-là, l'auteur de cette question aurait donc remporté le concours de proposition. Voilà. Là, étant donné qu'il n'y a qu'une seule personne, on peut pas vous montrer dans les circonstances réelles comment ça fonctionne, hein, puisque c'est Globen. Donc, Shinji n'a même pas à choisir la question pour départager Globen de Globen. Qui vous pose donc cette question, à laquelle vous pourrez répondre dès la fin de cette émission, à savoir, en 2009, lors de quel Grand Prix Fernando Alonso a-t-il fait un malaise à l'arrivée alors que sa pompe à eau ne fonctionnait plus? Il faut avoir suivi l'émission d'Australie pour savoir la référence et le lien avec la Malaisie. Donc voilà, donc cette question, je vous la répète, hein, en 2009, lors de quel Grand Prix Fernando Alonso a-t-il fait un malaise à l'arrivée alors que sa pompe à eau ne fonctionnait plus? C'est très facile à trouver, honnêtement, c'est pas compliqué. Vous allez donc sur fanf1.com, dans la rubrique en plus, vous prenez le formulaire de contact, vous choisissez comme destinataire le SAV de l'IF1, vous nous envoyez votre réponse, hein, et en plus, une question en rapport avec le Grand Prix de Chine pour qu'on puisse vous sélectionner. Voilà. Vous pouvez également, si vous voulez pas vous embêter, utiliser l'adresse du SAV, savf1@yahoo.fr. Je répète, savf1@yahoo.fr. Voilà. Et vous avez, bien évidemment, jusqu'à lundi prochain.
Mardi, oui.
Mardi prochain, puisqu'on
enregistrera
un peu plus tard. Donc, mardi prochain, vous avez jusqu'à mardi prochain, 18h, pour nous répondre. Voilà. En n'oubliant, bien évidemment pas, si vous nous posez une question, pour être choisi, faut aussi nous donner la réponse à cette question. Voilà. Vous avez une réponse à nous envoyer avec une question et une autre réponse à nous donner. Voilà. Là, c'est juste pour...
C'est simple!
Là, c'est juste pour rajouter une petite couche. Alors, Antoine, est-ce que c'est un peu plus clair?
Là, ça va. Ça devrait aller.
Vous allez voir, quand on aura deux réponses, ça deviendra très clair. Là, il y en a qu'une, c'est un peu moins clair.
Bon. On va se tourner vers... Déjà ce week-end, parce qu'il n'y a qu'une semaine d'écart. Ça va arriver pas mal de fois cette année.
Et même si c'est un peu tard pour réserver un billet d'avion, on a peut-être quelques bonnes ou mauvaises raisons à vous donner. Enfin, nous, non.
Bah oui.
Nous, non. Pour vous permettre d'y aller.
Eh oui, Antoine. Il va falloir bosser.
Non, vous pouvez pas me faire ça.
Oui, on peut.
Il faut que je me montre à la hauteur de Fab, ce qui va être chose assez difficile, vu que il a mis la barre très haute quand même. Tu vas être honnête.
Nous t'écoutons.
Et donc j'ai choisi les 7 bonnes raisons.
Ouais, ils sont courageux.
Ouais.
J'essaie de retarder un peu l'échéance. Hein. Donc, dans les dernières années, il y a quand même plus assez souvent pendant le Grand Prix de Chine. Donc on sait tous que les Grands Prix sous la pluie sont quand même super animés. Donc la course risque d'être quand même plutôt sympa. Sinon, on verra Red Bull devant encore.
Ouais. C'est une bonne raison.
C'est une bonne raison.
Donc, une raison qui me concerne moi pour regarder le Grand Prix, c'est que je suis quand même rédacteur sur fanf1.com. Donc, pour écrire quelque chose en rapport avec la course, c'est mieux que je la regarde.
C'est pas con ça comme raison. Attention, elle ne pourra servir qu'une seule fois. Je préviens les autres rédacteurs qui viendront à ces quatre. C'est terminé.
On va voir si Red Bull a enfin un KERS, enfin un KERS qui fonctionne. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas vu.
C'est vrai.
Ensuite, c'est aussi le dernier Grand Prix avant qu'on passe donc en Europe. Et vu qu'en Europe, il y aura pas mal d'améliorations sur les monoplaces, ce sera le dernier Grand Prix avant des gros changements sur les voitures. Donc, on pourra aussi voir si le DRS est vraiment aussi utile ou si c'est juste spécifique à la Malaisie.
Alors, ils ne savent toujours pas où ils vont s'en servir.
Oui, bah, ce sera sûrement sur la grande ligne droite.
Bah, eux, ils disent que sur la grande ligne droite, de toute façon, c'est déjà, elle est tellement longue que c'est déjà favorable au dépassement. Donc, ils ont plutôt envie de s'en servir dans la ligne des stands.
Ouais, mais non, avant, il est assez rapide quand même.
Donc, c'est ça le problème, en fait. À la limite, il faudrait peut-être même l'activer avant dès la sortie de l'épingle.
Moi, ça risque d'être dangereux, ça.
Oh, il y a un grand dégagement.
Bon, ensuite, voir comment tous les autres ils vont réagir, vu que maintenant, on sait que Red Bull est quand même supérieur à tout le monde. Après le Grand Prix d'Australie, on s'est dit, c'est peut-être spécifique, on pourra peut-être les rattraper sur des autres circuits, puis là, finalement, on a un Vettel qui a surnagé au-dessus de tout le monde.
Tu veux dire que ça va être le premier Grand Prix, on va se demander, mais qui peut battre Red Bull?
C'est à peu près ça.
Et donc, dernier
point à voir enfin l'usure des pneus Pirelli dans des vraies conditions. Parce que bon, en Australie, c'était un circuit semi-urbain. En Malaisie, la température était super, super élevée. Et en Chine, ça devrait être à peu près normal, comme pendant les essais hivernaux. Donc, reste à voir si les pneus Pirelli vont faire pareil ou s'ils vont être encore pires.
Bon, c'est pas mal ça, comme cette raison.
C'est bien. C'est cette bonne raison.
C'est dans un autre style.
C'est le côté rédacteur, tu vois. Donc lui, il trouve des vrais bons arguments. Voilà.
Et en même temps, j'avais la même idée que Fab sur le coup, les billets d'avion sont pas chers. Bon, vu qu'il l'avait déjà dit.
Ah, mais bien évidemment, vous n'avez pas le droit de réutiliser les anciens trucs, hein.
Mais...
Alors, sinon, vos pronos pour la Chine.
Pour la deuxième place, c'est ça, on est d'accord?
Ouais, voilà. Moi, j'ai envie de dire Hamilton. Je me dis que s'il arrive à faire une bonne qualif, il peut peut-être réussir à briser l'hégémonie de Red Bull.
Ouais, je vois bien Hamilton faire la pole en Chine.
Ouais.
Mais finir deuxième ou troisième après le Grand Prix.
Et donc pour la victoire?
Pourquoi tu poses la question dans ce cas?
Non mais lui, Antoine, oui, pour la victoire, qui tu vois?
Vettel.
Voilà.
Pour le podium, ce serait Vettel, Button, Hamilton.
Moi, je dirais. Je serais bien comme Franck Montani qui a pronostiqué Perez. Moi, je vois bien un petit sursaut d'orgueil. Et s'il pleut, pourquoi pas des pilotes Ferrari, je dirais Alonso.
Ah ouais.
Il y a beaucoup de si quand même. Hein.
Oui.
Qui vient sur ce sursaut d'orgueil, qui pleut.
Qui trouve une voiture aussi.
Dès qu'on sort de VTEP, il y a forcément des si. Hein. Voilà. Ça... On arrive à la fin de cette émission?
Oui.
Oh non.
Alors comment c'était, Antoine? C'était bien?
C'était très bien.
Content de l'aventure?
Prêt. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est 3 heures où on se marre bien, on rigole bien, on discute plus ou moins sérieusement. Et...
Bah écoute, nous, ça nous a fait plaisir de te recevoir.
C'est vrai, ça fait très plaisir.
On a juste maintenant à trouver quelqu'un pour l'émission du Grand Prix de Chine.
Et moi, ce qui m'a choqué dans l'émission d'aujourd'hui, par contre, c'est que vous avez pas fait de pub pour le guide du SAV de la F1.
Non, c'est vrai, ça.
C'est vrai. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler de ce magnifique guide.
Oui, voilà, c'est vrai que on va vite fait en reparler. On a fait un guide pendant l'intersaison pour le SAV de la F1. Voilà, donc vous allez sur savf1.fr. Qui est notre ancien site où il y a toujours quelques petites activités, notamment il y a un jeu de pronostics, voilà, qui est tout à fait amical et sur lequel vous pouvez aller vous inscrire, qui est géré par l'un de nos auditeurs qui s'appelle Bilo et qu'on remercie pour la gestion. Voilà, vous aurez un article qui vous parle de notre guide où vous aurez des extraits, un extrait de 3 pages, voilà, et donc n'hésitez pas à aller regarder, voilà, le guide coûte 15,99€. Pour tout vous dire, on se fait une marge d'un peu plus de 2€ dessus, et ces 2€ serviront à financer le cadeau du concours Top Opposition en fin de saison. Ça veut dire que plus vous achetez de guides, plus le cadeau sera bon.
Le cadeau est gros.
Voilà. Pour le moment, vous aurez pas un gros cadeau. Voilà. Merci Antoine de nous donner l'opportunité de parler du guide.
C'est de rien.
Ouais.
Mais ça, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent, ouais, c'est bien, ça fait professionnel et tout, il a l'air pas mal. Ouais,
bah, achetez-le!
Ça donne envie de l'acheter, mais arrêtez d'avoir envie.
Achetez-le!
À noter qu'il y a quand même une version PDF qui est disponible.
Oui,
PDF. Même si c'est pas forcément celle qu'on vous conseille, parce que le but c'est aussi de pouvoir écrire sur le bouquin, puisque c'est assez interactif.
Interactif, ouais.
Mais bon, il y a une version PDF que vous pouvez acheter à 5,99€. Voilà, donc.
Sur ce, vous qui nous écoutez, on vous remercie de nous écouter. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme d'habitude, suivant l'heure où vous nous écoutez.
On vous remercie aussi de publier, parce qu'on a souvent cette petite surprise-là de tomber sur des sites de Formule 1 avec le lien vers l'émission, donc ça, on vous en remercie.
Et donc, n'oubliez pas, la F1 sur Internet, c'est sur FanF1. Et on vous salue et on se quitte, comme d'habitude, sur un petit dicton.
Oui, un petit dicton qui vient finalement fort à propos après ce week-end et après la performance de Vitaly Petrov, puisque c'est un proverbe africain, assez bizarrement, vous verrez, qui nous dit ceci: c'est en essayant encore et encore que le Russe apprend à bondir.